I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bois ce verre.
Mais je ne veux pas de ce verre.
Il ne veut pas de ce verre. Il veut.
Je veux pas.
Tu veux.
Je veux pas.
Tu veux.
Je veux pas.
Tu veux.
Je veux pas.
Tu veux pas.
Je veux.
Tu veux pas.
Je veux.
Tu veux pas.
Écoute, quand je dis je veux, ça veut dire je veux.
Bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma. À côté de moi, comme toujours, Guillaume et Aurélien. Comment ça va?
Oui,
ah bah ça va très bien.
Quel plaisir d'être de retour.
Mais grave. Oui. Ça va, c'était cool les vacances d'été?
Bah c'était très sympa. Figure-toi, je suis allé à Copenhague. J'adorais.
T'es parti à Copenhague.
Ouais, ouais. Ça va pour toi?
Très bien. Aurélien?
Ouais, très bien. J'ai redécouvert les belles régions françaises. C'était super.
Très bien, je note. Alors, il y a quelques semaines, je me suis dit, ce serait cool de faire participer les abonnés de TFTC à un podcast. J'ai donc lancé un tirage au sort sur Insta et deux personnes ont été choisies. Ces deux abonnés seront donc les invités du jour. Et afin de faire les présentations, je vais commencer avec Charlotte. Comment vas-tu?
Ben, ça va bien. Je suis contente d'être là.
Cool. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas?
Ben écoutez, j'ai 26 ans, j'habite à Aix-en-Provence et voilà, j'adore le cinéma, donc je suis là.
Et tu es venue d'Aix?
Tout
et ça, ça nous touche ici.
Et elle a gagné un quiz aussi.
Et elle avait gagné un quiz pendant le confinement sur Insta.
Tout voilà,
bravo, c'est vrai que tu t'y connais bien en ciné.
Merci.
À côté de toi, Ludovic, comment
Bonjour.
Ça va?
Bah ça va très bien, je suis content d'être là. Hein.
Même chose, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas?
Alors, je m'appelle Ludovic, j'ai 28 ans, j'habite à Chessy, à Marne-la-Vallée, et je travaille dans un parc à thème près de Paris, qui est à Marne-la-Vallée-Chessy.
Donc Disneyland.
Voilà, c'est ça. Je voulais faire version télé où ils disent pas vraiment l'endroit, mais...
Ouais, mais non, ici... tu peux le balancer,
voilà,
easy.
C'est Disneyland Paris, voilà.
Alors, comment est-ce que vous avez découvert la chaîne, Charlotte?
Bah, je suis déjà Tabs.
Ok.
Donc, forcément, le lien...
Très bien. Et toi, Ludo?
Alors moi, j'ai connu...
Je t'ai appelé Ludo, hein. J'ai créé un sentiment de proximité avec toi.
Ça me va,
on va l'appeler
pas.
Chacha aussi.
Je t'appelle JB, voilà. Et donc, moi, j'ai connu Tabs. En fait, c'était mon ex. On était dans sa chambre et... Et elle a sorti son ordi portable. Et puis, vu que je suis fan de Michael Jackson, elle voulait savoir si je connaissais vraiment tout sur Michael Jackson.
Ah.
Donc, elle m'a montré le fameux Tabs sur Michael et savoir s'il y avait des choses que je ne savais pas. Et finalement, bon, moi, je savais tout.
Bon, allez, là.
À part le dernier, comme quoi il pissait sur son paillasson après l'interview avec Oprah Winfrey, j'ai pas trouvé...
Info très tabsienne.
Ouais, info très tabsienne.
Ça commence fort.
Cool. Alors, pour préparer cet épisode de rentrée, je me suis baladé sur l'outil Cinémature que vous pouvez retrouver sur le site de We Love Cinéma. Et parmi tous les films qui sont listés, j'en ai choisi un qui fait plaisir à tout le monde, à savoir Qui veut la peau de Roger Rabbit. Film sorti en 1988, réalisé par Robert Zemeckis avec Bob Hoskins, Christopher Lloyd et Kathleen Turner qui prêtent sa voix au personnage de Jessica Rabbit. Ce film raconte l'histoire d'un détective privé qui est engagé par un directeur de studio afin d'enquêter sur une affaire d'adultère. Jusque-là, ça semble assez classique, sauf que la personne qu'il doit suivre à la trace n'est autre qu'un Toon. Car dans ce film, les humains et les personnages de dessins animés évoluent dans le même univers. Qui veut la peau de Roger Rabbit est aujourd'hui considéré comme un classique et un des meilleurs films d'animation avec prise de vue réelle. Il a obtenu 4 Oscars, meilleur effet visuel, meilleur montage sonore et enfin un Oscar pour une contribution spéciale. Et préparer cette intro m'a permis d'apprendre l'existence de cet Oscar assez rare. En gros, c'est un Oscar qui est décerné de temps en temps quand une personne révolutionne le cinéma avec des effets visuels ou sonores. Par exemple, John Lasseter l'a eu en 96 pour Toy Story parce que Pixar à l'époque c'était une révolution et Iñárritu l'a eu en 2018 pour Gravity car là aussi, visuellement, c'était la première fois qu'on voyait ça. Et donc pour Roger Rabbit, c'est Richard Williams qui l'a obtenu, Richard Williams qui était directeur de l'animation sur ce film, bluffant à l'époque et qui n'a pas vieilli tant que ça aujourd'hui. Alors je me tourne vers vous, la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film? Et je vais poser la question à Charlotte.
Je crois que je devais être très très jeune, j'avais la cassette. Et je crois que la cassette ne marche plus tout simplement, parce que je l'ai tournée en boucle pendant très longtemps.
Et tu l'as encore?
Ouais, j'ai cool. Encore. J'ai toutes mes cassettes.
Toujours très cool dessus. Quand on regarde des trucs d'enfance comme ouais. Ça, plus tard. Ok, donc c'est vraiment les premiers souvenirs, genre cassette vidéo, petite.
Ouais, ouais. Bah moi, j'adorais les... J'étais pas très dessin animé, vraiment, les Disney et tout ça. Mais j'aimais beaucoup les bons films et je les tournais, quoi, tout le temps.
Ok, cool. Toi, Ludovic?
Alors moi, c'est assez long. En fait, c'était après l'école, j'allais voir un pote. Donc j'avais quel âge ? J'avais 7-8 ans. Et il avait la VHS de Qui veut la peau de Roger Rabbit. Et donc là, j'ai vu ce lapin, ça me fait penser à... Je ne sais pas si vous vous souvenez, avant, il y a le Disney Parade sur TF1. Et oui. Il montrait des extraits de films, et il y avait ce fameux Roger Rabbit où il disait « Oh, c'est gratuit, ça fait comme ça, c'est un mille et un mille de mille !»
Il fait la voix et tout.
Oui, attention, imitation. Et franchement, bah, je me souvenais de ce lapin-là, et je me suis dit bah, « Je vais prendre sa VHS, je vais l'emprunter. » Bon, finalement, l'emprunt a duré très longtemps. Et à côté, il y avait aussi une VHS, donc c'est lié après à ce que je ferai plus tard en métier. Il y avait la VHS de Chantons tous ensemble. C'était des karaokés Disney, avec c'était En route pour Euro Disney. Et là, encore une fois, il y avait Roger Rabbit dessus.
Donc en gros, tout ce que je retiens de ton histoire, c'est que quand on te prête une cassette, tu la rends pas.
Voilà, très longtemps, j'oublie de la rendre.
C'est une info à retenir de cette.
Voilà, j'oublie de la rendre. Et puis là, c'était le coup de foot quand je l'ai vu. Je pense que j'ai vraiment usé sa cassette, le pauvre. Et après, bah, dès que j'ai eu ma première paye, je me suis acheté l'édition collector de DVD de Roger Rabbit. C'était un des premiers trucs que j'ai acheté.
Ok, cool.
Moi, je l'ai vu au cinéma, mais quand j'étais petit. Et après, évidemment, je l'ai eu en cassette et elle est toujours chez mes parents. Mais les premiers souvenirs que j'en ai, je pense que j'étais tellement petit qu'en fait, ça fonctionnait à fond sur moi. Tellement que bah, vraiment, le méchant me faisait peur. Et Jessica Rabbit, bah, je la trouvais méga sexy. Alors bon, c'est un dessin, mais tu vois. Non, mais évidemment, c'est un souvenir d'enfance de ouf. J'ai vraiment saigné cette VHS.
En fait, on a tous saigné cette VHS.
Ouais,
c'est vrai.
Bah, je crois que moi, c'est pareil. C'est la cassette vidéo. J'ai pas vu au cinéma, mais je me souviens que c'était mon classique de vidéo de l'après-midi, là, pendant les vacances. Énormément de bons souvenirs.
Moi, finalement, j'associe ce moment parce que j'associe beaucoup Roger Rabbit à un autre film qui est Chérie, j'ai rétréci les gosses. Parce que, pour une raison que j'ignore, il faudrait que je cherche ça sur Internet, sur les VHS, il y avait l'image de Chérie, j'ai rétréci les gosses, parce que les deux films étaient liés bizarrement. C'est-à-dire qu'au début de la cassette de Chérie, j'ai rétréci les gosses, il y avait un mini cartoon de Roger Rabbit. Et bah, sur
mais
la
oui,
VHS.
C'est le cartoon du bébé.
Exactement.
Ah, oui, si vous avez la présentation. Ouais. Aux urgences, non ?
Ouais, comme c'est un truc de Disney, et ils ont mêlé les deux, je pense, pour faire de la promo. Et quant à la cassette de Chérie, j'ai rétréci les gosses, bah, il y a un court métrage de Roger Rabbit avant.
Mais la dernière fois, j'ai vu un t-shirt de ça. Un t-shirt où il y a les deux, oui, justement, c'est un double t-shirt de ça.
Je veux ce t-shirt.
Ouais, justement, je pense à toi. Je sais pas si je te l'ai envoyé, mais il faudra qu'on le retrouve. Effectivement, il y a ça.
Mais tu vois, c'est cool. Et comme Guillaume, bah, finalement, mon premier émoi, ça a été Jessica Rabbit, alors c'est un dessin animé. Et aussi, il y a une scène qui m'a beaucoup traumatisé quand j'étais petit, c'était la fameuse scène de la chaussure dans le bain d'acide.
Ah, ouais. La trempette.
Pas la trempette.
Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, pour moi, c'était un peu le. Souvent, les gens citent la scène de Bambi qui se fait assassiner par le chasseur. Mais finalement, pour moi, c'était vraiment la scène de la chaussure. Et je revois cette scène pour préparer cette émission. Elle est dure de
Elle est dure. Ouais, ouais. Mais surtout, quand tu parlais de cet Oscar parce que c'était novateur, quand on le revoit maintenant, ça n'a pas vieilli. Les effets n'ont pas vieilli du tout.
Tout à fait.
C'est fou.
Très bien fait. Et surtout, ils font un truc que j'apprécie énormément. C'est qu'il regarde les dessins animés dans les yeux. Ça, c'est très bien fait.
Ouais.
Parce que je me souviens de sa cartoon, il regardait trop pas les cartoons dans les yeux. Et ça me stressait quand j'étais petit.
Ils sont de côté, c'est genre.
Ils avaient des marionnettes avant pour mettre dans la scène. Ils avaient des marionnettes pour bien voir le visuel.
Exactement. Dessus. Et d'ailleurs, c'est une des infos qu'on retrouve dans une émission que j'ai trouvée très cool si vous avez Disney+. C'est sur les secrets de tournage et les props de films. Je sais plus comment. Je crois que ça, j'ai oublié le nom. Donc mon anecdote tombe un peu
c'est
à l'eau.
C'est propre culture, quelque chose comme ça, c'est secret
ouais,
tournage.
Ouais, propre culture en anglais, mais en français c'est un autre nom. Enfin bref, en tout cas c'est un mec qui collectionne plein de trucs de films, et il va dans les archives Disney, et en gros il raconte l'histoire de chaque prop, etc. C'est très cool. Et du coup on apprend effectivement qu'il mettait une maquette de Roger Rabbit, et il parlait à la maquette, et après il redessinait par-dessus, etc. Donc c'est pour ça qu'il parle vraiment dans les yeux. T'as raison Ludovic.
C'est sympa.
Et attends, et si on peut parler d'un lien entre Roger Rabbit et la chaîne TFTC? Le bureau de Behind the Peak.
Exactement.
Il a été inspiré du bureau du détective dans Roger Rabbit.
Exactement. Un jour, on vous racontera comment s'est tournée cette nuit de tournage de Behind the Peak avec Guillaume. On était épuisés. Mais c'est vrai qu'on s'est pas mal inspiré de l'univers du bureau d'Eddie Valiant pour Behind the Peak que vous pouvez retrouver sur la chaîne de Tel Son de Clic. Alors, Aurélien, je mentionnais tout à l'heure Roger Rabbit comme étant un des meilleurs films d'animation en prise de vue réelle. Et dans l'histoire du cinéma, des films utilisant ce procédé, il y en a eu des bons et des moins bons.
Tout à fait. Et est-ce que vous vous rappelez la dernière émission justement qu'on a faite ensemble avec Cyrus et Tom, où je parlais de musique et cinéma, et je vous disais que tout était lié, qu'en fait quasiment la comédie musicale était née en même temps que le cinéma. Et bah finalement, le mélange entre animation et cinéma, c'est pareil. C'est né quasiment au tout début. Parce que quasiment le premier film de mélange entre vrai live action et animation, c'est en 1912 avec Gertie le petit dinosaure, qui est un film, un petit court-métrage qui est donc fait en noir et blanc avec pas de parole, qui a été fait par Winsor McCay, qui est un super illustrateur que moi j'adore, car c'est le mec qui a inventé Little Nemo. Donc forcément, il a un peu quelques liens avec moi. Après, on va dire qu'au tout début, les grosses liaisons qu'il y a entre animation et live action, c'est surtout avec du stop motion. Donc on va dire tout ce que va faire après Ray Harryhausen, c'est-à-dire de l'animation de petits trucs en pâte à modeler ou en trucs en maquette, quoi, qui vont être animés en stop motion, donc image par image. Et là, en 1925, on a une première création qui va s'appeler The Lost World, d'ailleurs, auquel va faire référence plus tard, notamment Spielberg.
Spielberg qui était fan de Ray Harryhausen.
Ouais, et bah ça, c'est encore l'ancêtre de Ray Harryhausen, c'est vraiment... Et déjà, en fait, moi, j'ai revu le court-métrage là, t'as l'impression que c'est toujours réel, hein. C'est le même mec qui a fait les effets spéciaux ensuite de King Kong et de tous les trucs qui après vont influencer Ray Harryhausen, donc hyper beau à voir encore en termes de mélange de live-action et animation, et tu vois en fait des batailles de dinosaures avec d'autres dinosaures, et t'as des humains autour qui sont un peu étrangement... émerveillé de tout ça, c'est assez cool. Et en fait, le premier vrai mélange de cartoon, on va dire, et de live action, enfin de vrai film, c'est en 1940 avec un court-métrage de Warner Bros., donc les frères Jones notamment, qui font un film qui s'appelle « Vous devriez faire du cinéma ». Et en plus, ils reprennent un petit peu le concept de Roger Rabbit, c'est-à-dire qu'ils considèrent que les Toons existent réellement. Et en fait, t'as Porky et Daffy Duck qui se pointent chez Chuck Jones et leur autre producteur pour leur demander de revoir leur contrat. Donc c'est hyper méta comme truc. On est quand même en 1940 et t'as Porky qui arrive avec sa petite voiture et qui demande à Chuck Jones de re-signer son contrat parce qu'il trouve qu'il n'est pas assez payé et qu'il veut changer de studio. Et il y a Daffy Duck qui arrive derrière en disant bah, « Vous avez qu'à me filer le meilleur contrat à moi. Moi, je suis la vraie star de... du truc. »
Mais ça devait être fou pour les gens de l'époque en 1940 de voir un mix toon. Prise de vue réelle.
Surtout
quoi.
Que je l'ai revu, donc c'est tout en noir et blanc, mais franchement, ça marche hyper bien. Ouais. Et c'est aussi. Après, ils font beaucoup de chant contre chant, donc il y a très peu de moments où tu vois vraiment tous les personnages humains et les personnages Toons ensemble, mais il y a un moment où il y a un gardien qui chope la voiture de Porky, qui la balance dans l'espace, enfin dans la rue comme ça. Franchement, c'est aussi bien que Roger Rabbit, hein. C'est hyper bien foutu et
alors,
tout.
C'est mortel. Quoi comme mot-clé pour retrouver ça sur YouTube?
You ought to be a picture in pictures.
Pardon. Ok.
You ought cool. to be in pictures. Parce qu'en français, vous ne trouverez pas. Mais sinon, c'est ouais, You ought to be in pictures. Je crois que c'est le plus simple pour le trouver. 1940. Sinon, vous mettez Porky, Daffy Duck, Chuck Jones, 1940. Vous allez trouver cette séquence facilement avec le gardien. Sachant que cette séquence, donc, est réalisée par Fritz Freyling, qui est un grand animateur chez nos amis de Warner Bros, Chuck Jones et consorts. Et je vous demande de retenir notre ami Fritz, parce qu'on va en reparler un petit peu plus tard.
Yes.
Pour une question subsidiaire bonus, vous allez voir.
Et avant, justement, tu avais aussi les Alice Comedies, qui étaient faits par Walt Disney, où c'était par exemple une...
Ça va venir, Walt Disney, t'inquiète pas.
Ah, parce que c'était avant, c'est pour ça. C'était
ouais, mais je suis 1900... pas forcément que dans le temps, en fait. je fais les voyages dans le temps, je me balade, t'inquiète pas.
Je ne dis plus rien,
mais oui, oui, bien sûr, il y avait les Alice qui étaient à peu près en même temps. C'est quoi, c'est les années 30
C'était 1923, jusqu'en 1925.
Ah ouais. Après, il se passait quoi? Raconte-moi tout.
Donc en fait, c'était Walt Disney avait vu ça, il voulait faire l'effet inverse de Gertie, justement.
Ouais.
Il voulait que ce soit la petite fille qui entre dans le monde des Toons. Et non les Toons qui entrent dans le monde réel. Et c'était Alice qui était inspirée de Alice au Pays des Merveilles, où elle était dans Cartoonland et elle rencontrait des chats, des éléphants, des lions.
Mm.
Bon, certes, quand on voit ça maintenant, c'est en noir et blanc, il n'y avait pas de son.
Ouais.
Ça fait très, très vieillot, mais c'était la petite...
Tout à fait.
Technologie d'époque.
Ben, c'est vrai, c'était en effet les premiers effets Disney qu'on a trouvés, qui vont après grandir, mais c'est vrai que le style de Disney, c'était plutôt de mettre des humains dans des cartoons, en fait, dans des dessins animés. Et ce qu'ils vont faire bien dans un long métrage à partir de 1943, avec les Saludos Amigos et puis les Sali Caballeros, qui sont donc deux films qui se répondent, dans lesquels il y a des chansons. Ben, on a un grand spécialiste de Disney, donc si tu veux nous parler, n'hésite pas de ce sujet.
Pas de soucis,
hein. Comment dire, c'est donc Donald et ses deux potes qui viennent du Mexique et de
voilà, en fait,
du Brésil.
C'est une commande des États-Unis parce qu'à l'époque c'était la Seconde Guerre mondiale.
Ah.
Et le but c'est que les États-Unis aient beaucoup d'alliés, dont l'Amérique du Sud qui n'était pas encore sous l'ère Hitler, Mussolini, ils connaissaient pas. Donc les États-Unis arrivent en disant Saludos amigos, justement bonjour les amis.
Ouais.
Et c'est Donald, l'américain pur souche, qui va voir les Américains du Sud, donc les Mexicains à Panchito. Donc le coq et José Carioca, le perroquet qui était brésilien.
Voilà.
Et en fait, c'est Donald qui visite les pays en Amérique du Sud pour montrer la beauté de ce continent.
Et comme à l'époque, il y avait plein de chansons, donc il y avait plein de stars brésiliennes et mexicaines qui chantaient, et on les voyait intégrer dans les dessins animés. Donc c'était le grand mélange de Disney, qu'après ils vont surtout réussir à faire très bien dans un film qui a fait énormément polémique, qui est un peu le point Goldwyn de Disney à cette époque, qui sort en 1946, c'est Song of the South. On a pas mal parlé ces derniers temps, parce qu'ils ont viré donc tous les personnages d'une attraction en fait qui était historique chez Disney dans les années, depuis je sais pas combien de temps, je
pense. Alors c'est sorti 50, en 89, l'attraction c'est Splash Mountain, et donc depuis les mouvements Black Lives Matter, Disney a dit voilà, on va la transformer en Princesse à la Grenouille, une attraction sur Princesse à la Grenouille.
Ludovic est un spécialiste du parc Disney.
Alors, c'est bien parce que justement, ce qui m'intéressait, c'est que donc Song of the South, c'est l'histoire. En fait, c'est on va dire une version dessin animé d'histoire qui existe depuis très longtemps, depuis 1880. C'est tiré de livres en fait, qui raconte un peu, on va dire, le folklore des Afro-Américains, mais de l'époque de l'esclavage. Donc le problème du film, c'est qu'il met dans des bonnes conditions, on va dire. De façon un peu, il glamorise un peu la plantation, donc et la relation maître-esclave, ce qui est quand même pas ouf. Mais malheureusement pour Disney, c'était une des meilleures animations avec une personne live à l'intérieur, et surtout leur premier vraiment film avec un acteur noir dans premier rôle. Donc c'était un peu compliqué parce que ça partait un peu dans les deux sens. Et tout ça pour dire que ça va être un peu le maître étalon de tous les films qui vont faire un peu dans le même genre. Et bien sûr, dans les années 60, Mary Poppins, avec cette fameuse séquence qui est très longue où on voit Mary Poppins et Dick Van Dyke aller faire un tour du côté du monde qu'il avait créé à la craie par terre, là. Mais
c'est ça. Il l'a vendu avec tellement de mépris. Bah, alors c'est que ça. C'est une grande,
Je crois que c'est le synopsis officiel, ça.
C'est ça. moi j'ai vu que c'était ça.
Surtout le à la craie par terre là.
Par terre là. Mais tout ça pour dire que plus tard, moi il y avait un mec justement qui m'a intéressé dans ce mélange de live action et d'animation. C'est un film qui s'appelle Coonskin et qui se fout un peu de la gueule de Song of the South, donc Mélodie du Sud, qui reprend en fait les préceptes un peu racistes du film et qui en sort en fait un film avec les mêmes petits travers, mais profondément antiraciste et hyper provoque dans les années 70. Et c'est là que je peux me permettre de vous parler de Ralph Bakshi, qui pour moi est sûrement le meilleur et le plus intéressant en termes d'animation un peu provoque. C'est le mec qui a fait Fritz the Cat avec Robert Crumb à la fin des années 60, mais surtout au tout début des années 70, il va faire énormément de films qui à chaque fois vont faire un peu, on va dire, des gros pavés dans la mare, parce qu'ils vont, enfin, on va sûrement le considérer comme une sorte de Dark Disney, parce qu'en gros, c'est tout le monde le considérait que c'était un Disney avec du cul, de la violence et des choses des années 70. Sauf que lui, il allait beaucoup plus loin dans son concept, même si ça n'a pas été très bien compris à l'époque. Et justement, avec Coonskin, il avait pris Barry White et plein d'autres acteurs pour jouer les voix. Et il avait employé les premiers animateurs noirs. Il avait employé la première afro-américaine dessinatrice aussi pour animer. Enfin bref, il avait tout un concept autour de ça. C'était vraiment un truc d'empowerment un peu contre Song of South, justement. Et ça a été très mal pris par la NAACP à l'époque, qui l'a traité de film raciste. Donc en fait, bon, bah, ça n'a pas marché non plus. Et après, il est parti faire de la fantasy. Notre ami Ralph Bakshi, notamment, il a fait le premier film du Seigneur des Anneaux en 1978. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, il a mélangé des phases d'animation avec des personnes réelles, avec des couches de peinture finalement collées par-dessus, mélangées avec du cartoon en fait. Et c'était ce gros mélange un peu foutraque qu'on n'arrivait pas trop à calculer, qui était vraiment dans son esprit un peu, on va dire, fonce-dé à l'acide, qui l'a emmené sur les trucs assez fous et qui l'a emmené jusqu'en 1992 avec une sorte de suite dark à Roger Rabbit qui s'appelle Cool World. Est-ce que quelqu'un a vu Cool World ici?
Avec Brad Pitt, non?
C'est un film avec Brad Pitt, en effet.
Charlotte, t'as déjà vu Cool World?
Oui, avec Kim Basinger.
Exactement. Tu peux nous raconter l'histoire de Cool World?
C'est
dur à raconter une histoire.
C'est... Je ne saurais pas faire un aussi bon synopsis que Mary Poppins, mais franchement, je ne sais pas trop.
Oui, parce que ça part un peu dans tous les sens, finalement,
c'est
Cool World.
Ça part complètement dans tous les sens. Déjà, c'est hyper dark de base. C'est l'histoire d'un dessinateur donc, de comics, qui sort de prison après une longue peine, parce qu'on apprend plus tard qu'il a buté l'amant de sa femme, ben, bref, un truc un peu darkos. Et en fait, il a passé tout son temps en prison à dessiner un monde spécial hein, pour des comics qui s'appelle le Cool World, qui cartonne et qui est lu par, dans le monde entier. Et en fait, on découvre que depuis tout ce temps, ce monde existe vraiment. Donc créé dans la tête de Gabriel Byrne, qui donc fait le dessinateur. Et quand il sort de prison, il se retrouve un peu comme dans Little Nemo, en fait, quand il rêve, il tombe dans le monde de Cool World, où toutes ses créations existent réellement. Et donc il y a le fameux personnage de Hollywood, qui est joué par Kim Basinger, qui est un peu sa création la plus sulfureuse, un peu pulpeuse, qui rêve de faire l'amour avec une vraie personne, donc au début avec Brad Pitt qui tombe dans le couloir un peu par hasard.
Tout le monde rêve de faire l'amour avec Brad Pitt.
Bien choisi, hein.
Ouais, mais sauf que Brad Pitt, il dit non. Alors que c'est Kim Basinger, quand même. Enfin bon, elle est dessinée, je suis d'accord, mais... Et donc, parce qu'il y a toute une légende qui veut que dans le couloir, si tu fais l'amour avec ce qu'ils appellent un noïde, donc une vraie personne, tu deviens réel. Et donc, je vous spoil pas le film, parce que de toute façon, il est incompréhensible. Et même Rav Bashki dira que c'était impossible pour lui, parce qu'il n'a jamais pu aller aussi loin que ce qu'il voulait. Mais c'est toute une parabole bizarre sur le rapport au créateur avec sa création. Finalement, c'est pas aussi éloigné que tous les esprits de Frankenstein. Sauf que là, bon, bah, y a un aspect un peu sexuel autour de tout ça. Et Kim Basinger, à un moment, devient réelle et elle se retrouve dans le monde normal. Mais surtout, il y a des moments où ça devient complètement fou, où ils deviennent à moitié des cartoons dans un monde réel. Brad Pitt, il part en sucette. Enfin bref, c'est impossible à voir. Enfin, je pense que tout le monde trouve ce film nul. Je ne sais pas si tu l'as trouvé bien, Charlotte. Mais...
Nul, peut-être pas, mais incompréhensible, non, ça c'est sûr.
Voilà. Compliqué, parce qu'en fait, il a été charcuté, mais moi, je trouve qu'il y a... Là, je l'ai revu, là, ce week-end, et je trouve qu'il y a dedans énormément de choses de ce que j'aime de Rav Bashki, donc tous les trucs un peu provoques, débiles, bizarres. Et en même temps, c'est hyper bien réalisé, c'est au moins aussi bien animé que Roger Rabbit.
Est-ce que tu l'as vu, ton nouveau grand écran?
Ouais, tout à fait.
Parce que Aurélien m'a d'acquérir un grand écran c'est en... vrai. J'ai un rétroprojecteur et il nous fait rêver quand il nous envoie les stories.
Je regarde des films tout le temps maintenant, je suis quand même malade. Mais celui-là, en gros, je le recommande vraiment. Et en fait, c'était surtout pour dire qu'à partir des années 80, 89, 90, donc quand sort Roger Rabbit en 88, il y a énormément de films qui sautent dans ce wagon, parce qu'on voit que ça marche, que ça cartonne, on récupère les modèles des cartoons que tout le monde connaît et on se dit allons-y, fonçons. C'est à ce moment-là qu'il y a Cool World, bien sûr, qui se prend les pieds dans le tapis parce que personne ne comprend rien. Mais c'est aussi là qu'il y a le film Richard au pays des livres magiques, je crois, qui sort en 1994, un film de John Johnson, un mec qu'on connaît pas, mais qu'on connaît en fait, parce que c'est le mec qui a fait Jumanji, c'est le mec qui a fait Jurassic Park 3,
Captain America.
Et aussi Captain America, et plein d'autres films dont on ne connaît pas le réalisateur, mais en fait c'est lui. Et c'est avec Macaulay Culkin et Christopher Lloyd, donc on a tout ce qu'il faut pour faire un super film pour nos VHS quand même.
J'ai jamais réussi à le finir, ce film.
Eh ben, personne n'a réussi à le finir.
Ah ouais?
Parce qu'il est un peu catastrophique aussi. En gros, c'est un mélange, en fait, comme il y en avait dans les années 70, de live action, et puis après, tu tombes dans un monde, mais qui est totalement dessin animé. Il n'y a pas vraiment de... C'est juste une alternance de moments en vrai cinéma et de moments en dessin animé. Et en fait, il y a un problème de scénario. C'est cool parce que tout le monde est cool. Il y a des beaux effets spéciaux. Je crois d'ailleurs que c'est produit par Chris Columbus. Donc, tout est fait pour que ce soit vraiment bien. Mais il y a un plafond de verre qui fait que ça sera juste OK, quoi.
Je crois même qu'il y a un jeu Super Nintendo dessus.
Bah oui, parce qu'à l'époque, ils y croyaient à fond. T'imagines, c'était l'acteur de Maman, j'ai raté l'avion, avec un des acteurs de Retour vers le futur, réalisé par un des mecs d'Amblin, avec des effets spéciaux dans tous les sens. Et bah non, c'était une grosse plantade. Et après, bien sûr, on arrive sur 96 avec
Space Jam.
Voilà, du basket, Space Jam. Un film qui sera autant décrié que kiffé, parce qu'il y en a qui diront que c'est juste une énorme pub pour Michael Jordan et pour ses chaussures et pour le basket en général. À l'époque, où tout était dans le RP. Après, je vous laisse regarder The Last Dance, l'épisode dessus, en fait, ça suffit largement. Mais il y a un truc à retenir quand même, c'est que dans ce film, il y a Bill Murray.
Ouais.
Et cinq ans après, il y a un autre film avec Bill Murray qui sort, qui est aussi très décrié, qu'il y a autant de gens qui détestent, qui aiment. Je ne sais pas si vous l'avez vu ici, c'est Osmosis Jones.
Jamais vu.
Mais c'est avec le corps humain, c'est
tout à fait, c'est un film des frères Farrelly, déjà rien que ça, moi j'y vais. Les frères Farrelly qui ont fait notamment Dumb and Dumber, Marie à tout prix, et énormément de films où il y a beaucoup d'humour. Complètement fou. Et on part du concept que Bill Murray est un gros dégueu qui travaille dans un zoo et qui mange tout et n'importe quoi et qui n'a pas une hygiène de vie très sympathique. Et donc, il se met à manger un œuf qui est tombé dans la cage d'un lion, je crois. Et en fait, en mangeant son œuf, on se rend compte qu'il a fait rentrer un virus mortel dans son corps. Et donc, quand, toutes les phases... En fait, c'est un peu comme l'aventure intérieure, que, sauf que tout ce qui se passe dans son corps, en fait, le truc de « Il était une fois la vie », c'est un dessin animé. Et dans lequel t'as un flic qui essaye de retrouver le virus mortel et de le buter, et ce flic est joué par Chris Rock. Donc, enfin, en dessin animé, mais la voix, c'est Chris Rock. Donc, sur le papier, c'est absolument extraordinaire. Donc, il y a des mélanges de Bill Murray qui est dégueulasse du début à la fin du film. Sa fille, elle en peut plus, elle essaie de lui faire comprendre que tout ce qu'il fait, c'est horrible. Et en même temps, il lui arrive des trucs bizarres, parce que, bah, à l'intérieur de son corps, il y a des gens qui essayent de se battre pour essayer de tuer les virus mortels qui essayent de le buter. Donc en plus, avec le Covid, là, c'est pareil, c'est un film que j'ai revu il y a 3 jours. Je peux te dire, quand tu repenses avec le concept du Covid et tout, c'est un film qui est vraiment compliqué, parce que tu te dis, si c'est ça le Covid dans ton corps, c'est très dur. Mais c'est hyper sympa à regarder. Et en fait, je trouve qu'il a été un peu... d'évaluer ce film, sorti en 2001. Il y avait vraiment tout pour que ce soit bien. Il n'y a pas vraiment de scène où il y a des toons ou des dessins animés avec de l'animation, enfin avec du vrai film. Mais c'est un très bon mélange des deux. Donc je vous recommande à fond. Et au tout début, je vous ai parlé de mon ami Fritz. Vous en rappelez ?
Oui.
Eh bien, c'est un bonus. Parce que le dessin animé le plus improbable qui est tiré d'un film de cinéma et qui est resté le plus longtemps, savez-vous lequel est-ce ?
Non.
Si je vous dis Rose.
Titanic ?
Non.
Panthère Rose ?
Eh oui, la Panthère Rose.
Ah oui, la générique.
Eh oui, qui a vu le film La Panthère Rose ?
Moi, je l'ai vu.
Avec Beyoncé ?
Steve Martin, quand même.
Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. C'est la deuxième
t'as
version.
L'original. Là.
Normalement, c'est Peter Sellers. Mais ouais. Savez-vous ce que c'est que vraiment, en fait, la Panthère Rose à la base ?
C'est pas un diamant ?
Eh ben si. Eh, il est bon, lui. Hein.
Il est très calé.
Wow.
En fait, la Panthère Rose, à la base, c'est un film donc, avec David Niven et Peter Sellers, dans laquelle la Panthère Rose, c'est juste le nom de l'énorme diamant que David Niven essaye de voler pendant tout le film, pendant que Peter Sellers, en inspecteur complètement nul, essaye de comprendre pourquoi qui est David Niven et il n'y arrive jamais. Donc déjà, c'est un film qui est assez exceptionnel, de Black Hayward, etc. Mais surtout, le trait de génie, c'est que le générique, ils se sont dit, on va faire un générique autour de la Panthère Rose, parce que personne ne comprend ce que c'est un diamant, tu le vois jamais, en fait, pendant tout le film. Et donc, ils filent ça à un animateur, qui donc se retrouve notre ami Fritz, qui invente ce personnage de la Panthère Rose, qui est censé représenter, en fait, le diamant que tout le monde poursuit. Et tu vois David Niven essayer de poursuivre le diamant. Ça cartonne. En plus, il y a la musique, forcément, du film qui joue. Et à partir de celui-là, donc ce film, tous les films de la série, donc je crois qu'en tout, il y a eu plus de 12 films, hein, quand même, parce qu'il y a eu la reprise avec Steve Martin après, il y a eu le retour de la Panthère Rose, ça date de 63 jusqu'à presque 2003 ou 2005, il y a des épisodes du film, en fait, de la Panthère Rose. Donc à chaque fois, il y aura un animé. Mais surtout... derrière, les amis de Warner Bros, je crois, ont décidé que c'était un super personnage. Ils l'ont vendu, un show. Un dessin animé qui a duré plus de 10 saisons, je crois, avec un personnage qui est en fait tiré d'un diamant. Donc un personnage qui n'existait pas, d'un film qui est à la base complètement à part. Donc ça, c'est vraiment l'histoire what the fuck de comment le dessin animé et le cinéma ont été reliés ensemble.
C'est drôle parce que ça fait partie des idées reçues... Là, en l'occurrence, la Panthère Rose, c'est donc un diamant.
Ouais.
Et il y a aussi plein de gens qui pensent que Frankenstein, c'est la créature, alors que pas du tout.
Bah non,
et dans l'histoire du cinéma, il y a plein d'idées reçues comme ça sur les personnages et sur les noms. C'est terminé, j'imagine, cette chronique.
Ouais, ouais, j'en avais encore plein d'exemples, mais je pense que Panthère Rose, c'était bien pour
finir. Est-ce que dans les exemples, t'as Bob l'éponge, le film ?
Ouais.
Avec David Hasselhoff.
Ouais, j'en avais plein, des comme ça.
Parce que je conseille aux auditeurs, s'ils l'ont pas vu, la scène de Bob l'éponge, le film avec David Hasselhoff.
Ah, elle est folle.
Qui est quand même incroyable, où Bob l'éponge, il se retrouve en dehors de la mer. Du coup, avec le soleil, ça le fait sécher. Et c'est David Hasselhoff qui va l'aider et qui va le renvoyer dans la mer en l'expulsant dans les fonds marins à l'aide de ses pecs.
Du coup, David Hasselhoff en version dessin animé ou réel ?
Non, version réelle. Ah ouais. Il aide Bob l'éponge dans le film. C'est trop drôle.
Mais il a encore des pecs, David Hasselhoff ?
Bah, à l'époque, hein, c'était il y a quand même 10 ans maintenant, facile.
Ouais, je pense. Il y a plein de mélanges comme ça. J'ai pas recensé, mais il y a des fois où il y a juste une scène, soit animée, et soit live.
Last Action Hero.
Il y a Last Action Hero avec une scène. À l'inverse, il y a par exemple le film Lego, La Grande Aventure Lego, où je vais pas vous raconter, mais il y a une partie qui est en live action avec Will Ferrell qui explique absolument tout le film. Et il y a aussi, par exemple, dans Scott Pilgrim, où il y a énormément de mélanges, où à un moment, il se retrouve presque dans un jeu vidéo et c'est de l'animation, mais ça emmène carrément dans un autre truc. Donc, il y a... En fait, on peut aussi dire que tous les films actuels de grands studios, c'est des films qui mélangent animation et cinéma, parce que tous les effets spéciaux, c'est de l'anime en fait, donc ou c'est même de la CGI par-dessus, donc ça devient hyper compliqué maintenant de définir ce que c'est.
Et d'ailleurs, pour ceux qui ont vu le dernier Tabs sur Morgan Freeman, dans les années 70, avant d'être connu, lorsqu'il galérait, Morgan Freeman a participé à une émission durant plusieurs saisons qui s'appelait The Electric Company, et c'était une émission éducative pour les enfants, et dans cette émission, il lui arrivait de parler à des toons. Donc c'est vraiment un truc qui a vraiment, comme tu dis, rythmé l'histoire de l'image, soit à la télévision ou au cinéma. T'écouter, ça m'a fait penser à plein de toons. Du coup, j'ai une petite question pour vous. Je vais commencer avec Guillaume. C'est quoi ton toon préféré? Il y en a plein, parce qu'en plus, nous, on a grandi avec la génération sa cartoon, donc avec tous les trucs Warner, etc., machin. Est-ce que t'as un petit toon préféré?
J'en ai un, et il parle pas, il dit rien, il bave, et il s'appelle Taz.
Je me réveille. C'est vrai que j'adore Taz.
Taz, il fait rien, il est débile, il tourne, il casse tout, et c'est tout.
Moi, je crois que mon préféré, c'est le Coyote.
Ouais, j'allais dire pareil. Ouais.
Charlotte, pareil, le Coyote. Ouais.
Taz, il y avait un jeu Super Nintendo auquel j'ai beaucoup.
Mais je l'aime, il est cool ce jeu.
Ouais, il est cool ce jeu.
Il est très très bien. Toi, Ludovic?
Alors, c'est pas vraiment un toon, parce qu'il a été créé dans la bande dessinée, c'est Picsou.
Picsou?
Après, c'est vrai qu'il y a eu un cartoon sur lui, puis une série télé. Et ouais, c'est lui.
Ouais, quand je dis toon, c'est tous les personnages de son animé.
Allez, pour le coup, par contre, c'est méga. Là, il y a Taz, là, il y a Picsou, quoi.
Ouais, ouais, c'est la version. Je crois qu'on parlait des toons.
Les toons. Et toi, Aurélien?
Alors moi je me rappelle plus, je crois que c'était Pépé, enfin c'est le putois là.
Ah ouais, Pépé
j'étais
putois.
Mort,
ah,
il est cool, à chaque fois, parce que lui à chaque fois il faisait style qui était séducteur, il draguait.
Pas très mytho, lui,
Ah il était horrible. C'était vraiment un horrible personnage, mais surtout il puait quoi. Enfin même le personnage en lui-même était horrible. Donc
C'est vrai que je sais pas pour vous deux, mais en tout cas nous trois, je pense qu'on a vécu avec sa cartoon toute notre vie, tous les samedis.
Ah,
ouais,
tout dimanche soir.
Tous les dimanches ou les samedis, j'ai plus.
Ah, non,
mais en tout cas
dimanche soir. Et le lendemain t'allais à l'école, c'était des.
Ouais, en fait sa cartoon, ça avait un petit goût doux amer.
Ouais, mais ça a duré super longtemps.
Ouais, c'était bien.
Moi, ça a commencé début des années 90, c'est fini en...
Philippe Dana.
Dana, exactement.
Mais ce qui est fou, c'est qu'en plus, on regardait des cartoons qui dataient déjà des années 50. Donc, ouais. Ils nous ont arnaqué toute notre vie. Ils les ont
rentabilisés. Mais c'est cool, ça ne disait pas.
Ouais, c'est fou, ça.
C'était vraiment cool. Alors, j'ignore si vous vous êtes déjà fait la réflexion, mais il y a des prénoms qui, au fil des décennies, disparaissent définitivement. Par exemple, j'imagine pas un couple appeler son fils Patrick en 2020. D'ailleurs, okay. Si on voit un bébé qui s'appelle comme ça, c'est ridicule d'appeler Patrick. Genre, il est trop mignon, Patrick. C'est un petit bébé, que ça marche pas, ça fonctionne pas.
Ou Jean-Michel.
Oui, ça marche pas, ça fonctionne pas. Et pour Roger, le prénom qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la même chose. Du coup, comme ce prénom est voué à disparaître un jour, j'ai décidé de lui rendre hommage dans ce podcast. Il y a donc Roger Rabbit qui a contribué à lui donner ses lettres de noblesse, mais aussi d'autres dans l'histoire du cinéma. Alors, on va faire un petit jeu. Je vais tester vos skills en Roger.
Ok.
J'ai sélectionné une liste de Roger, célèbres, réels ou fictifs. Je vais vous lancer avec des indices. Et le premier qui trouve le Roger en question crie son prénom.
Okay.
Donc, exemple.
Je regarde.
C'est un lapin dans un film très connu. Guillaume.
Roger Rabbit.
Ah, on crie notre prénom avant.
Ouais, on dit. Enfin, on le crie.
J'ai gagné là.
On va faire Roger. Roger.
Comme ça, je sais. J'ai trouvé 10 Roger. Ne dites rien. J'ai trouvé 10 Roger. Là, je sais que vous êtes en train de réfléchir sur des petits Roger en personnel. Ouais. Et balancez votre prénom. Il y a 10 questions. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes prêt?
Ouais, on est chaud.
Très bien.
Premier Roger. Mon prénom, il est trop long. C'est chiant.
Je veux le nom de famille. Hein. Donc, ouais. Roger et le nom de famille. Il est trop vieux pour ses conneries.
Charlotte.
Ah, Charlotte.
Oui.
Roger Murdoch.
Oh là là, alors je l'accepte.
Oui.
Ce n'est pas Roger Murdoch, c'est Roger Murtoff.
Ah oui, pardon.
Mais je l'accepte quand même, ça fait 1-0 pour Charlotte.
C'est Glover, mais ça marche
alarme
pas.
Alarme fatale.
Guillaume, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Guillaume?
Pardon, mais je suis très fan de l'arme fatale.
Tu vois ce genre de jeu où en fait, ça y est, j'ai des Roger en tête et j'attends qu'ils sortent.
Et ils vont pas sortir.
Ils sont bloqués.
Tu vois, moi, ça me fait ça pour le blind test musical.
Je suis bloqué en fait. Il y a un truc, je me dis, ok, il a pensé à ce Roger-là, j'attends son Roger.
Eh bien, bravo Charlotte, 1-0, c'était vraiment Roger Murtoff, interprété par Danny Glover dans la série L'Arme Fatale.
Et aussi, je pensais que c'était que des Roger et des vrais Roger.
Non, j'ai dit justement, fictif. Tu vois, écoutez, il remonte, c'est pas un camp finalement.
Que des beaux élèves.
Il y a que des bons élèves.
Je passe un peu devant de la classe.
C'est alors, écoutez bien l'indice. Il donne son nom avant son prénom.
Roger Moore. Guillaume, Roger Moore.
Allez, MSS.
Excuse-moi.
Ça fait quand même le point pour Guillaume, mais il faut dire son prénom.
Oui, j'ai dit.
Roger Moore, effectivement, qui a joué dans 7 James Bond entre 1973 et 1985.
Ah, c'est bon ça.
Roger Moore, un partout. Mais pour la prochaine, il faut dire son prénom. Attention.
Oui, pénalité, moins un sinon.
C'est des pauvres petits rébus. Hein.
Alors, le prochain. Il travaillait dans un vidéoclub avant d'être réalisateur.
Ah, moi, bon, Aurélien. Oui. Roger Corman.
C'est non.
Eh putain, il va sortir d'un moment.
Si sûr.
Petit indice, grand pote de Tarantino. Gros indice même.
Ouais, moi. Aurélien, Roger Avary.
Roger Avary, bravo.
Ah ouais.
Roger Avary qui est le co-scénariste de Pulp Fiction et réalisateur entre autres film Killing Zoe. Horrible. Donc Roger Avary, voilà, qui bossait avec Tarantino dans un vidéoclub dans les années 90. Enfin 80-90. Alors, il a dirigé de grandes actrices, de Catherine Deneuve à Jane Fonda en passant par Brigitte Bardot avant même de se marier avec elle. Au pluriel.
Ah, Aurélien, Roger Vadim.
Oh, il revient en force.
Oh là là là.
Il revient en force. Effectivement, le réalisateur français Roger Vadim, réalisateur entre autres de « Et Dieu créa la femme ».
Si, si.
Ça fait donc deux...
Je me rappelle juste de lui parce que je sais qu'il a été marié avec Brigitte Bardot.
Bah, tu vois. Ça fait donc avec deux points pour Aurélien, un point pour Guillaume, un point pour Charlotte. Ludovic.
Ah non, j'étais sur Roger Moore, mais c'était trop tard.
Ah là là, il regrette. Il regrette sur Roger Moore. Alors, un des plus. Alors, celui-là, ça devient un peu plus dur. Un des plus grands critiques américains de l'histoire du cinéma.
Ah, Aurélien.
Oh, il est chaud.
Roger Ebert.
Oh là 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 là,
Roger Ebert, sur son site tous les jours. Lui.
Ouais. En vrai, il est méga connu. Il est resté pendant 46 ans au Chicago Sun-Times, un des plus grands critiques de l'histoire du cinéma américain. Et avec Gene Siskel, de 75 à 82, il a eu une émission qui s'appelait Sneak Previews. Et je vous conseille vraiment de taper ce nom sur Google. Leurs émissions sont très cool.
J'ai un Roger en tête. S'il ne sort pas, c'est catastrophique.
Mais moi aussi.
Il est très nul par rapport à ce qu'on
vient de dire. Attends,
non, mais en plus, il est tellement connu, le mec, qu'il est mort depuis, je sais pas, 15 ans. Il a encore un site qui s'appelle rogerhebert.com. C'est genre un média. Genre, le mec, c'est fort.
Celui-là, il est technique. Est-ce que Aurélien va l'avoir? Il a réalisé des films ultra connus, comme Cocktail, Le Pic de Dante ou encore La Recrue. Et pourtant, peu de gens connaissent son nom.
Ah ouais.
Cocktail, Le Pic de Dante ou encore La Recrue. C'est quand même des films connus.
Sur le cocktail, ouais.
Non, mais ça va, quand ça va sortir, je vais faire « Oh non !»
Je pense que personne ne l'a, c'est Roger Donaldson.
Ah bah oui.
Qui est un réalisateur... Fais pas genre « Ah bah oui hein !»
Non, je sais pas.
Tu vois, j'ai grillé. Ça joue mal, ce « Ah bah oui !» C'est un réalisateur australien. «
Ah bah oui, qu'on fait en cours.
Ah oui. Non mais oui, bah, normal.
Guillaume, il a peut-être une chance sur le prochain. Pour ce nouveau Roger, on cherche un personnage de la série « American Dad ».
Roger l'extraterrestre. Ouais, mais Guillaume. Roger l'extraterrestre.
Je crois que c'est Guillaume qui a
dit. Il a pas dit son prénom, surtout Aurélien.
Bah, il a un nom en fait. Comment il s'appelle? Roger.
Ah, je sais pas.
Roger... Bah, le nom de famille de la famille.
Roger Griffin. Non, pas Griffin.
Non, pas Griffin.
Roger Smith.
Ah ouais.
Et alors, moi, j'ai jamais vu cette série. Est-ce que tu peux nous expliquer qui est ce personnage?
Bah, en fait, c'est exactement comme les Griffin. Dans les Griffin, il y a un chien. Là, il y a un extraterrestre. Et c'est juste un personnage. On n'explique jamais pourquoi vraiment il est là. C'est juste leur extraterrestre de compagnie, quoi.
Le père, il fait partie de la CIA, c'est ça? Ouais. Et en fait, il héberge
l'extraterrestre.
Dans la zone 51.
C'est ça. Moi, j'ai 52.
Roger Smith fait donc 2 points pour Guillaume. T'as combien, Aurélien? 2 ou 3? 2
3 Attends.
Mais je crois que t'as 3, non?
Attends, j'ai.
Plus,
allez, j'ai 3. Non, j'ai Vadim, j'ai Hébert et j'ai un autre.
Ouais, t'en as 3. 3.
Attends, je vais quand même vérifier parce que.
Si, j'ai Vadim, j'ai Hébert et j'ai.
Et tu as Avary.
Avary, ouais.
Voilà, donc ça fait 3, 2, 1, 0.
0. Ouais, parfait.
3, 2, 1. Ah, et la prochaine est pour Ludovic.
J'espère.
Ah, la prochaine est pour Ludovic. Dans l'univers Disney, ce Roger possède énormément de chiens.
Ah, Ludovic, donc c'est 100 dalmatiens. C'est Roger Radcliffe.
Oh, joli. Il marque son point.
Mais comment on connaît ce nom-là?
Mais il le connaît, regardez. Oh, spécialiste Disney, Roger Radcliffe. Et ben
Roger
voilà.
Radcliffe.
Mais ça veut pas tous Radcliffe. C'est un peu comme Francis Perrin, tu sais.
Bravo, Ludovic. Donc là, ça fait 8 Roger. Et je vous avoue qu'à un moment, j'étais en chien de Roger. J'en avais plus, c'était fini.
Okay.
Du coup, pour arriver à 10 et finir ce quiz, on termine avec 2 Roger qui n'ont rien à voir avec le ciné. C'est parti. Je veux le prénom. Son terrain de chasse, c'est Wimbledon.
Ludovic.
Guillaume.
Roger Federer.
Bah, oui, Roger Federer, bien joué. Bah, il revient à 2 points, c'est incroyable, ça fait 2, 1, 2, 3. Attention, ça peut égaliser sur la dernière. S'il était français, son groupe s'appellerait Super Clochard. S'il était français, son groupe s'appellerait Super Clochard.
Ludovic, alors c'est Super Trump, je crois, mais après c'est Roger, mince.
Ah, il faut dire le nom.
Ah non.
Je sais que c'est dans le groupe Super Trump.
Guillaume va reprendre la main. C'est le co-créateur de Super Trump. Comment
Roger,
s'appelle-t-il?
Ah, mais j'ai arrêté de parler.
Le concept d'un podcast, c'est de parler, Guillaume.
Oui,
ah mince, Roger.
Je suis fou, je connais qui.
Ah, il galère. Ah, il galère, c'est terrible.
Roger Smith.
En fait, c'est le pire, c'est que je le vois avec son instrument, son piano, là.
Ok, mais... je vais. Parce que c'est à le point
je
que tu gagnes, attention.
Piano. C'est catastrophique.
La première lettre du nom est H.
Roger Hodge, non?
Roger Am Smith.
Eh bien, non, c'était Roger. Roger Hodgson.
Ah, bah oui, bien sûr.
Bon, il y a un autre Roger aussi.
Attends,
il y en a plein d'autres.
Il y en a plein d'autres.
Qui a créé le groupe avec Rick Davis en 69. Oui, Charlotte?
Il y a un autre Roger très très connu au cinéma, Roger Deakins.
Roger Deakins, eh ben t'as un point, voilà. Ça fait 2, bravo.
Tu sais, alors je vais vous dire quand même le Roger que j'avais en tête depuis tout à l'heure, qui n'a rien à voir avec le cinéma, et je me suis dit, il va sortir, c'est obligé. Roger Zabel, tout le monde s'en bat les couilles. Et ça a pris la place de tous mes Rogers.
Roger Zabel.
Ça a pris la place de tous mes Rogers.
Roger Zabel qui était un présentateur sur TF1. et qui a rythmé toutes les soirées de la Ligue des Champions le mercredi soir. T'avais même pas le foot en plus.
Non, mais j'ai une photo de lui où il est en train de courir un marathon, il y a juste ma tête qui dépasse.
Il a pas fait un truc avec des toons, c'est tout. Il y a pas un moment, il a présenté un truc.
Je pense pas.
Et Roger Carrel, on l'a pas cité.
Ah ouais,
oui,
Carrel,
oui bon, écoute.
Ouais, bah voilà, j'ai un point. Non, mais là, c'était
oui,
Roger.
Bon, écoute.
Moi, j'ai cité deux autres Roger, je dois avoir deux points.
Et celui Roger Navarro, il avait. C'était pas son prénom,
c'est non, Roger, ça va trop loin, Navarro, là.
Par contre, c'est
Roger Hanin. Hanin, mais oui,
Roger Hanin, c'est vrai.
Navarro. Navarro.
C'est vrai, mais oui, écoutez, vous avez tous gagné à ce jeu, bravo.
Ouais.
Vous avez dit, vous avez rentré. Vous êtes très calé en Roger, en tout cas.
C'était un super jeu, bravo.
Vous êtes vraiment calé en Roger.
Je pense que je vais l'appeler comme ça maintenant, mon fils. Roger.
Ah bah écoute, pourquoi pas.
C'est stylé.
La star de Roger Rabbit, c'est donc un lapin. Et le lapin au cinéma, il revient assez souvent, finalement, Guillaume, et parfois même avec des significations et des fortunes assez diverses.
Et tout à fait, vaste affaire que le lapin au cinéma et plus largement sa symbolique dans la société. De son appartenance à des expressions courantes comme poser un lapin, le cou du lapin, chaud lapin, il est aussi un mot doux. On surnomme volontiers quelqu'un mon lapin pour lui témoigner notre tendresse. Hein, JB, t'es mon lapin.
Mais t'as toujours été mon lapin.
Alors j'ai une question pour vous avant de commencer cette chronique. Qu'est-ce que le lapin vous évoque? Si je vous dis lapin, ça vous évoque quoi?
Une patte.
Une patte ?
Mais tu sais, je disais un truc, moi, ça m'évoque le fait que c'est autant mignon qu'un chat, mais malheureusement, ça n'a pas le même confort qu'un chat, tu vois.
Le même confort ?
Bah, tu vois, les chats, c'est devenu domestique.
Mais il y a des lapins domestiques.
Ouais, mais moins que les chats.
Oh, ça tape de la patte.
Alors que vraiment, un lapin, c'est vraiment. Et si ce serait pas même plus mignon qu'un chat ?
Ah, c'est vrai, ça.
Bah oui, c'est la polémique que je lance actuellement.
Je pense à cause des crottes. Ça en laisse partout.
Ouais,
c'est les chats aussi.
Il a raison. Très terre à terre, mais il a raison.
Et vous, ça vous évoque quoi, les lapins ?
La carotte.
La carotte, bah
voilà. Bravo, la carotte.
Quelque chose de mignon.
Quelque chose de mignon, d'accord.
Tout simplement.
Eh bien, objet de superstition sur les bateaux, il est interdit de l'évoquer. On considère en revanche sa patte comme porte-bonheur, comme on l'a dit. Et il est aussi vecteur de danger et de maladresse pour Jean de La Fontaine ou encore la RATP. Ne mets pas tes doigts sur la porte, tu risques de te faire passer très fort. Si on se penche sur la symbolique de l'animal, on se rend vite compte que c'est un fourre-tout. Tantôt synonyme de vitesse, de fertilité, d'anxiété, d'abondance, de richesse, de créativité et de spontanéité, ça part dans tous les sens. Son image la plus connue dans l'imaginaire collectif étant celle d'un lapin de Pâques. Lapin, qui est un symbole de fertilité, vient cacher des œufs en chocolat dans le jardin. Ce qui n'a absolument aucun sens, mais au final, pas plus qu'une souris qui vient te donner un cadeau sous son oreiller en échange d'une de tes dents. Donc, l'un dans l'autre, on n'est plus à sa près. Il est donc normal qu'au cinéma aussi, il soit différent de film en film. Prenons l'exemple du plus connu d'entre eux.
Roger Rabbit.
Bugs Bunny.
Bugs Bunny, enfin, voyons. Le plus connu d'entre eux, Bugs Bunny, lapin farceur et anthropomorphe, il est le personnage de cartoon le plus représenté dans le monde. Il a même gagné un Oscar en 58 pour Les Peureux Chevaliers de la Table Ronde et il a une étoile sur le Walk of Fame Hollywood. Il est inspiré de Groucho Marx dans sa façon de tenir sa carotte comme un cigare et il l'a incarné dans plusieurs cartoons comme par exemple Ruse de Lapin. Je l'ai pas vu. En termes de symbolique.
Et bien sûr.
Et du coup, comment il récupère son. Enfin, t'as vu les images de ça? Comment il récupère son Oscar? Ils ont mis un truc animé aux Oscars
non,
ou pas?
Je l'ai pas vu. J'ai pas vu, je sais pas
c'est
comment
Roger Carrel qui va.
Et ils l'ont déjà fait pour des Oscars, pour La Belle et la Bête. Tu les vois animés dans la cérémonie des Oscars. Pareil, Toy Story, où quand ils ont reçu l'Oscar, tu vois Woody Buzz qui applaudissent dans la salle.
Trop bien.
Mais je crois que j'avais vu un truc où les Simpsons ils recevaient une récompense et par contre, c'est des personnages déguisés. C'est un peu de la merde.
Pas le même budget.
Ouais. En termes de symbolique, il est le lapin intelligent qui maîtrise ses ennemis par la joute verbale, la persuasion ou le déguisement. C'est le premier Toons à se travestir de l'histoire. Il n'a jamais perdu contre personne, c'est le lapin libre et effronté à qui l'on doit la punchline célèbre.
Quoi de neuf, docteur ?
Bien joué, Kit. Oh, ouais,
il est bon, t'as voix, Ludo.
D'ailleurs, Bugs Bunny est réutilisé dans L'aventure intérieure de Joe Dent. Je sais pas si tu te souviens.
Ah, ouais, c'est vrai.
Il y a une petite figurine de Bugs Bunny et c'est Dennis Quaid qui l'utilise.
Il était aussi dans Gremlins 2.
Ouais,
le début.
Exact.
Ouais, c'est
au tout
vrai.
Début.
Exact.
Qui est entré dans le langage commun universel. Donc, quoi, neuf docteurs, son rôle le plus connu au cinéma restera Space Jam, dans lequel il donne la réplique à Michael Jordan. Il est donc tout l'inverse des autres lapins, connus du cinéma, comme Roger Rabbit, qui est un peu gauche, un peu maladroit, un peu peureux, ou même le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Lapin, qui ici représente le temps qui file. Il a une montre à gousset, il est craintif et en fuite permanente. C'est lui qui mène Alice dans un terrier pour se retrouver au Pays des Merveilles. Lapin, donc, a la dimension mystique et magique, qui tire directement son inspiration des lapins blancs utilisés par les magiciens pour les sortir de leur chapeau. Et là, je me suis dit, mais pourquoi les magiciens utilisent des lapins? Alors, je suis allé sur une revue scientifique. Et la revue scientifique, elle nous disait ça. On le sait peu, mais les lapins ont des pouvoirs magiques. C'est d'ailleurs pour cela que les magiciens les utilisent souvent dans leur tour. Par exemple, pour les faire apparaître dans leur chapeau. Tout le monde croit que c'est le magicien qui fait le tour, mais il n'en est rien. C'est le lapin.
Ah, tiens, d'ailleurs, Guillaume, est-ce que tu sais, est-ce qu'on peut comme ça jeter comme ça une sorte de clarification sur ce mystère? Comment ils font avec le lapin et le chapeau? Quelqu'un le sait ici ou pas?
Bah, moi, j'avais entendu dire un truc terrible où en fait le lapin, ouais, bah apparemment le lapin, il le.
C'est terrible ton histoire là.
Dans le Prestige, que t'as vu ça? Dans le Prestige, je crois qu'on en voit.
Mais il y a un moment où il y a des magiciens qui disent oh, non, mais le lapin, il est, ils en ont deux identiques et il y en a un qui meurt quoi.
Mais c'est terrible ce que tu dis là.
Et les colombes, c'est pareil. Hein.
Ouais, est-ce que quelqu'un peut.
J'espère qu'il n'y a pas d'enfant qui nous écoute.
C'est terrible.
Ça décapite des colombes.
Mais en plus, c'était une vraie revue scientifique où j'ai vu ça. Donc j'ai
Valentin, l'ingénieur du son, qui fait nom de la tête.
Bon, allez.
Mais je suis outré. Hein.
Il est outré. Non, il est juste outré en fait.
Et donc, image de guide vers un autre monde, ou image mystique qu'on retrouvera plus récemment dans Us de Jordan Peele, les lapins blancs sont un symbole récurrent du film. Sur un t-shirt, en peluche ou par sur un t-shirt, en peluche ou par centaines. Mais attends, qu'est-ce que je lis là?
C'est trop petit, je t'avais dit.
Ah ouais. C'est écrit tout petit. Sur un t-shirt, en peluche ou par centaines sur certains plans, sans spoiler. C'est une nourriture, mais aussi une allusion métaphorique à la condition des clones, tous semblables et tous en cage. C'est aussi le même principe qui mènera la jeune fille dans un monde parallèle en étant attirée vers la galerie des glaces qui l'entraînera dans un monde secret. Dans une interview, Jordan Peele a déclaré sa peur des lapins. Animal qui, selon lui, a le cerveau d'un serial killer. Je cite « Si tu remplaces le cerveau humain par celui d'un lapin, tu obtiens Michael Myers. Ce lapin, symbole d'invitation à l'aventure, est aussi à retrouver dans Matrix, tatoué sur l'épaule d'une jeune fille, ou cité sur l'écran d'ordinateur, comme une invitation au voyage, encore une fois, Follow the White Rabbit. Aussi, comment parler de la dimension mystique du lapin sans évoquer Donnie Darko ? Film de Richard Kelly en 2001. Vous avez vu ce film ?
Oui.
Tout à fait.
Qui a compris, t'as compris ce film, Charlotte?
Ah oui, j'adore Donnie Darko.
T'as compris, Ludovic, ce film?
Non, j'ai pas trop compris.
Aurélien, t'as compris ce film?
Mais...
Bon, on l'avait déjà classé comme film chuchotage.
Ouais, c'est vrai.
Dans un podcast avec Louis Lebrun.
Et on a inventé une nouvelle rubrique de film chuchotage qui est film, j'ai pas compris, c'était Tenet.
Ouais, ouais, ça c'est pas mal.
Mais il y a un lapin en référence dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Je sais pas si tu l'as, du coup.
Un lapin en référence dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, Roger Rabbit, par exemple?
Non. Non, non, non. Ah. Un vieux film de 1950.
Alors attends. J'ai pris ma plus belle voix pour dire ça. Mais attends, mais je ne sais pas de
dans
quoi.
Dans Roger Rabbit.
Ah, mais attends.
Ouais, il y a une ref.
C'est quoi la ref?
En fait, quand ils sont dans le bar qui cherche Roger Rabbit, il y a un des piliers de bar qui fait genre qu'il a vu un lapin et tout. Il parle de. Et il dit, hey, Harvey et tout ça.
Ah,
et
oui,
c'est
oui,
Harvey avec James Stewart.
Ouais, exactement. Mais on va en parler après. On va en parler après, effectivement.
Bravo, Charlotte.
Ouais, j'adore ce film.
Bravo. La figure de lapin est omniprésente dans le film Donnie Darko, de son affiche à sa musique par le groupe Echo and the Bunnymen. Ici, le lapin est surnaturel et effrayant, il annonce un mauvais présage, il est une nouvelle fois à la frontière entre deux mondes, le réel et l'imaginaire, l'adolescence et l'âge adulte. Il annonce aussi le mauvais présage ou la punition lorsqu'il est malmené dans Liaison Fatale en 87 avec Michael Douglas et Glenn Close, lorsqu'il est retrouvé ébouillanté, vivant, dans une casserole. Tristesse pour l'enfant et terreur pour les adultes.
Scène lapin... très traumatisante.
Ouais. Ouais.
Je l'ai revu là pour préparer le... C'est pas facile, hein.
Est-ce que tu veux nous rappeler l'histoire de ce film, Guillaume?
Figure-toi que je n'ai pas vu ce film. J'ai revu la scène comme un professionnel. Mais bravo. L'histoire, en gros, c'est que Michael Douglas, il a une relation avec Glenn Close, mais il est marié avec une autre femme, et Glenn Close, elle le supporte pas, c'est ça.
En fait, ouais, en fait, il se rend compte qu'il vient de coucher avec une folle furieuse.
Ouais, voilà.
Qui lui mène la vie dure.
Ça vous est déjà arrivé de coucher avec une folle?
Non, mais par contre, ce film est très cool. Je veux dire, franchement... Pour n'importe qui veut tromper sa meuf. C'est un message que je lance comme ça, en tout cas. Regardez ce film, et après, t'as vraiment plus envie de tromper ta meuf.
Ouais, surtout donc, si vous voulez tromper votre meuf et que vous avez un lapin.
Ouais, tiens, c'est pire.
Ce qui est dingue, c'est qu'au début, tu dis Michael Douglas, c'est un salaud, mais à la fin, t'as un peu de peine pour lui quand même.
C'est vrai. C'est exactement
c'est
ça.
C'est des salauds dans ce film, en fait.
Non, sauf celle qui te fait tromper.
Ouais, j'avoue. Ouais. La pauvre. Elle a rien demandé, elle.
Et alors, le lapin synonyme de passage à l'âge adulte. Bonsoir. Le lapin synonyme de passage à l'âge adulte, errance adolescente, est aussi à retrouver dans Gumo. De Harmony Korine. Vous avez vu ce film?
Yes.
Pareil, on n'a rien compris.
Le personnage de Bunny Boy, jeune garçon errant, portant des oreilles de lapin. Bon, je ne sais pas s'il faut vraiment comprendre.
Non, c'est un peu.
C'est quand même un petit peu un film chuchotage, mais on se laisse plus porter par ce film, je trouve. Quand même.
Ouais, c'est en mode David Lynch, quoi. C'est un peu absurde avec des séquences un
peu. Et David Lynch, on va en parler, et quelle transition.
T'as vu?
Bravo.
Le monde de l'imaginaire est aussi peuplé de lapins dans Inland Empire de David Lynch, et plus précisément sa série Rabbit Experience, qu'il a ensuite intégré dans le film, qui était disponible sur son site mais qui ne l'est plus et qu'il a ressorti en coffret plus tard. 8 courts épisodes dans lesquels on observe une famille de lapins habillés comme des humains dans un salon de sitcom. C'est un plan fixe, les lapins sont noirs, les dialogues décousus, l'intrigue est vague, le mystère est entier, ponctué de rires enregistrés. C'est du David Lynch. L'animal est encore ici synonyme de reflet mystique de l'humain. Et toi qui es fan de David Lynch, est-ce que tu as vu ceci ?
Oui, et il me semble qu'il l'a mis sur sa chaîne YouTube, il me semble.
Alors, et qu'est-ce que tu as pensé de Rabbit Experience ?
Alors, moi, j'aime beaucoup comparé à Island Empire, mais...
Mais qu'est-ce que tu as compris ?
Je pense que, mais comme Lynch, comme on a dit, il n'y a rien à comprendre, il faut se laisser aller.
C'est une bonne excuse, je l'utilise beaucoup, celle-là.
Ouais, et alors c'est une excuse qu'on a, mais pas pour tes nettes, hein.
Vas-y, bien sûr, il faut se laisser porter par l'expérience.
Ouais, voilà. Ouais, c'est du cinéma.
Mais Lynch, comme il dit, ses films, c'est de l'art, donc il n'y a pas vraiment à comprendre.
Ouais, c'est vrai.
Ok, question furtive pour Charlotte, ton top 3 de David Lynch préféré ?
En comptant les séries ?
Ah, yes.
Ok, bah Twin Peaks.
Ok, forcément.
Twin Peaks.
C'est dur. Hein.
Okay. Oui, c'est
elle
dur.
Elle est stress.
Je t'ai mis en galère de ouf.
Ouais, ça va.
Celui avec Patricia Arquette, mince.
Oui. Lost Highway, non ?
Oui, pardon. Lost Highway et Sailor et Lula.
Ah, bravo.
Bravo. Je vais reprendre ma chronique. On n'a pas attendu Denis Darko ou David Lynch pour voir apparaître un lapin imaginaire à forme humaine, puisqu'il est présent dès 1950 dans.
Harvey
de Harry Coaster, où le personnage de James Stewart vit en compagnie d'un lapin invisible avec qui il discute. Béquille psychologique, guide vers un autre monde, reflet mystique de nous-mêmes, animal magique, farceur rieur ou ami éternel des enfants comme Pampan le lapin de Bambi, Peter the Rabbit ou Jeannot Lapin, dans les chansons de Chantal Goya, ou les lapins crétins. C'est aussi un animal sacré de la culture japonaise qu'on retrouve dans les animés, les mangas et en statue devant de nombreux temples. Animal culte aussi pour la culture de l'entertainment érotique avec le logo de Playboy.
C'est vrai ça ?
Eh ouais, choisi pour son espièglerie par son fondateur Hugh Hefner. Ou dans la culture tout court, je cite le lapin du Racel, Quickie, le lapin de Nesquik, le lapin à lunettes noires, des petits pois casse-grains. Bref, le lapin est partout. J'avais la lourde tâche de faire une chronique sur le lapin et je pense pouvoir dire en finissant sur le lapin des petits pois casse-grains que le tour d'horizon a été effectué. Merci les lapins.
Alors du coup, ça vient d'où chez le lapin de Playboy du coup ?
Non, en fait, ça vient de. C'est un animal hyper fertile et qui se reproduit hyper vite, et ça vient de là.
J'ai oublié de mentionner Stumi Bugsy, qui est un chaud lapin.
Ah, c'est vrai, ça.
c'est vrai. Autrement dit, le prince des Lascars aussi.
C'est vrai, prince des Lascars.
Prince des Lascars et chaud lapin.
Est-ce que vous avez déjà eu un lapin domestique ?
Pas du tout.
Oui, j'en ai déjà eu.
Ouais.
Comment il s'appelait ?
L'un que j'avais appelé Zidane.
Zidane.
C'était à l'époque, c'était 98. Hein.
Zidane, parce qu'il était très rapide.
Allez, Zizou.
Je me souviens, mon cousin, il avait un Yorkshire, et en 1995. Il hésitait, enfin finalement il l'a appelé Cookie, mais il hésitait entre l'appeler Ginola et Valdo. Aucun rapport, enfin, Valdo c'était un joueur du PSG dans les années 90, aucun rapport d'appeler son Yorkshire Valdo.
Bah, c'est vrai que son lapin Zidane c'est...
c'est 98, c'était normal, c'était la période.
Alors, tiens, petit horizon, c'est quoi les noms de... Vous avez déjà eu des animaux j'imagine tous ? Alors Guillaume, je sais que t'as un chien, comment s'appelle-t-il ?
Je suis sûr qu'il s'appelle Nouille.
Comment s'appelaient vos animaux de compagnie, Charlotte, t'en as déjà eu ?
Oui, il me semble que mon premier animal c'est... un hamster,
ouais.
Et je l'appelais Vanille.
Pas mal, Vanille.
C'est mignon.
C'est un nom d'un hamster, c'est Vanille.
Cool, ça, Vanille. C'est un nom qu'on donne quand on a 8 ans, quoi.
Pas mal. Ouais. Toi, Ludovic, t'as un autre lapin qui s'appelle Djorkaeff ou...
Non, c'est... après, j'avais deux chiennes, donc c'était Kaline et Opal.
Ça va.
Oh, c'est beau, mignon.
Ça. Ça va, c'est mignon.
C'est beau, Opal.
Aurélien.
Eh bien, moi, j'ai un chat qui s'appelle Nictou.
Ah oui, c'est vrai, on sait ça. s'appelle Nictou. Ah, bah, Zidane, c'est pas mal. Hein.
Et toi, alors ? Et toi ?
Moi, j'ai eu un bobtail qui s'appelait Dundee. Parce que les bobtails sont des chiens écossais, il y a la ville de Dundee en Écosse. Voilà. J'ai eu un chat qui s'appelait Charlie, un chien qui s'appelait Lafayette, un hamster qui s'appelait Ricky, pour un jeu de karaté sur Master System.
C'est bon ça.
Et puis mon chat actuel s'appelle Harpo, en hommage aux Marx Brothers.
Est-ce que tous les chats roux de la planète s'appellent Caramel, franchement?
C'est la première fois que j'entends cette anecdote.
Mais attends.
Non, franchement.
Ils s'appellent tous Caramel,
les chats. Par contre, personne n'appelle son chien Médor. C'est comme le Roger pour les humains.
Ouais, c'est vrai.
Médor. C'est vrai que personne n'a jamais appelé son chien Médor.
Si. Mais si, personne n'a appelé son chien Médor.
Ah, c'est bizarre.
Il y a dans les cartoons, en fait. Que dans les films et les cartoons, tu l'as.
Ah, ouais, c'est vrai. Okay. Sinon, il y a Rex.
Et tu donnes pas du tout ton nom à un chien connu. Tu t'appelles pas ton chien Rintintin. C'est pas possible. C'est déjà pris. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, mais ça se fait pas.
Alors que tu peux nommer.
Qui l'appelle Lassie ?
C'est quelqu'un de connu.
D'ailleurs, c'est un lapin.
D'ailleurs, en parlant de cartoon, il y a aussi comme. Les gens n'utilisent pas des noms, mais les gens n'utilisent pas des villes aussi. Personne ne va à Tombouctou.
Et c'est à chaque fois. Pourquoi ?
Tombouctou.
Mais non, mais ce que tu sais, dans les cartons, je sais pas si t'as remarqué, à chaque fois qu'ils sont envoyés dans une caisse pour aller dans un autre pays, il y a toujours marqué Tombouctou dessus.
C'est ce qu'il y a dans les Aristochats, justement, à la fin, il emmène les chats à Tombouctou. Ah ouais. Et d'ailleurs, Lafayette, tu t'es inspiré pour les Aristochats, parce que t'as un chien qui s'appelle Lafayette.
Exactement, c'est ça.
Oh là là là.
Mais il est très calé.
Moi, j'ai été annulé parce que le chat, je voulais l'appeler le chien. mais il voulait pas.
Ah, ouais,
ça aurait été marrant. Eh, viens là, le chien.
En fait, c'est un jeu de mots comme ça.
Il est très calé en Disney, Ludo. J'ai envie de lui poser une question furtive comme ça. Vous avez pas des petites questions furtives, des petits quiz?
Non, mais moi, je vais avoir des questions pourries.
Est-ce que tu peux nous nommer les 101 dalmatiens?
Lucky, Rolly, non, après je sais pas.
Ah, il en a fait deux quand même. Le chien dans La Petite Sirène, il s'appelle comment?
Max.
Ah ouais, il est chaud, il est très chaud. Je le savais même pas, tu vois, pour te dire.
Il n'y a peut-être pas de prénom. Hein.
Quel est le Disney qui a fait le moins d'entrées?
Ah. Oh.
Alors, il y en a un qui est connu pour avoir fait un gros bide, c'était dans les années 80, c'est Taram et Chaudron Magique, où les bisounours le film l'a battu.
Il est trop bien, Taram et Chaudron Magique.
Il est un peu bidé.
Mais il était tellement sous-coté, c'est les bisounours le film qui l'a battu au box-office.
Pas mal. Je crois que j'étais allé voir au cinéma, ça me dit un truc.
Et pas Taram, tu vois?
Non, Taram, non, mais je l'avais en livre.
Tiens, Ludovic, toi qui travaille à Disneyland, est-ce que t'as pas des petites anecdotes croustillantes sur le parc Disneyland et même, j'ai envie de dire Euro Disney, parce que c'était les tout débuts en 92, c'est ça?
C'est ça.
Est-ce que t'as une petite anecdote croustillante qui nous ravirait comme ça autour du plateau?
Faut pas que je me fasse virer, donc faut que je fasse gaffe à ce que je dis. qu'est-ce que je pourrais te raconter? Bah, faut savoir que Michael Jackson privatisait le parc.
Pas mal. Mais en vrai, tu nous l'as dit en off. Donc je laisse continuer.
J'attends une note.
Du coup, j'ai envie de me régaler avec une info inédite.
Vas-y, pose-moi une question sur le parc.
Non, mais sur des attractions, par exemple.
Des attractions? Qu'est-ce que je pourrais te dire sur les attractions? C'est compliqué.
Est-ce qu'il y a déjà des accidents mortels, par exemple?
tu pourrais regarder sur Le Parisien, tu mets accident de Saint-Paris, tu les auras. Je ne peux pas te raconter, mais t'en as.
C'est justement l'info qui va te faire virer. Non, une petite anecdote, par exemple, des attractions qui ont disparu ou ce genre de choses.
Ah, bah, il y en a eu plein. Il y a eu les Killboats, les River Rock Killboats. C'était des petits bateaux qui faisaient le tour du lac de Frontierland. Ils faisaient le tour du train de la mine. Et c'était un cast member qui expliquait l'histoire de Frontierland faisant le tour du lac. Bon, hélas, il y avait tellement de monde et la place des bateaux, c'était 16 personnes par bateau. Il y avait deux bateaux. Donc, vous imaginez l'été, les temps d'attente monstrueux qu'il y avait. Mais il y avait plein d'attractions comme ça. Il y avait aussi les canoës. On pouvait faire du canoë dans le lac de Frontierland.
Pas mal.
Stylé, ça.
Et toi, tu dois être collectionneur de trucs Disney?
Pas tellement.
D'accord,
merci. Vite fait. Bah, toi, allez, sur Picsou, j'ai beaucoup de choses. Sur Picsou.
T'as des trucs très rares ou pas?
Oui. Bah, des choses qui datent de 92, par exemple.
Ah.
Genre
Des badges d'ouverture, des statuettes.
Ah ouais.
Et toi, Charlotte, est-ce que tu collectionnes des trucs liés au ciné? Un petit truc ou...
Alors, déjà, j'ai des steelbooks.
Pas mal.
J'en ai pas mal, ouais.
Il y en a plein qui se lancent dans des collections de steelbooks.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, bah, c'est...
Je sais pas ce que c'est.
Charlotte va t'expliquer ce que c'est.
En fait, c'est des Blu-ray, mais avec le boîtier métallisé.
Ah un peu en relief, genre 3D et tout ça.
Et après, j'ai plein de goodies. Par exemple, j'ai un gros œuf alien.
Ah, pas mal. Mais tu me régales. Alors, c'est l'œuf NECA, c'est ça?
Oui, bah, en plus, j'ai la reine mère qui est autour.
Ok.
Donc, très sympa. C'est trop un coffret bien. Blu-ray, en fait.
Ouais.
J'ai la mallette d'Inception.
Pas mal.
Et j'ai un gros coffret Hitchcock avec des croquis de certains de ses films, comme Psychose ou Les Oiseaux, et les dessins de Edith Head qui a fait les costumes.
Trop bien.
Est-ce qu'on peut rappeler aussi ce qu'elle nous avait dit, c'est qu'elle regarde les films par année?
C'est vrai. Charlotte nous disait qu'elle regardait les films par année, donc en gros, ce que tu fais, c'est que tu commences par exemple avec l'année 51. Et tu regardes quoi, tous les films qui sont sortis en 51?
Les films que je veux voir, en tout cas, en 51.
Ouais. Alors là, t'as commencé avec quelle année?
C'est quoi, là?
Alors, l'année dernière, en fait, j'ai commencé en 1980. J'ai commencé en été dernier. Et je voulais finir, du coup, 2019, en 2019. Et j'ai réussi. Donc, je fais 1980 jusqu'à 2019. Et là, j'ai repris en 1940. Et bah, là, je veux finir jusqu'à...
Est-ce qu'il y a des films qui t'ont marqué récemment dans tous tes visionnages?
Je réfléchis. T'es
net, oui, bon.
Non. On va pas en parler. j'ai vu... j'avais dit la dernière fois au quiz, enfin, après le quiz, que j'avais adoré un film avec Humphrey Bogart. Et j'ai vu, du coup, Harvey, justement. En 1950.
J'aimerais beaucoup le voir, ouais.
Et j'ai trouvé James Stewart incroyable dedans.
Mais quel acteur.
Du coup, pour faire la chronique, j'ai lu des critiques de ce film et il s'est un peu défoncé. Hein. Ils disent que c'est pas...
Moi, je le trouvais incroyable.
Ouais, ils disent que c'est pas ouf.
Enfin, en tout cas, c'est surtout le jeu de James Stewart que je trouve vraiment
dingue.
James Stewart,
c'est incroyable.
Moi, je préfère le lapin, moi.
Alors, c'est bientôt la fin de ce podcast.
Oh.
Mais j'aime bien que vous dites « oh » à chaque fois, ça met un peu d'ambiance.
C'est important.
Ouais, mais après, il y a le... Vas-y, fais ta phrase.
Mais avant de se quitter... Mais avant de se quitter, quelques infos tabziennes sur Roger Rabbit. Évidemment.
Mais elles sont croustillantes ou pas? Parce que
elles
t'as
sont
pas dit.
Très croustillantes. Ah, voilà. Tel un sneakers qui n'a jamais été ouvert.
Ouh. Bien. Bah, de quelle année? Puis après, ça croustille plus trop.
C'est quoi la barre chocolatée la plus croustillante?
Les lions.
Les croustilles, les lions.
Les crunch.
Les twigs.
Ah, les crunch.
Crunch.
En fait, elles sont toutes croustillantes, voilà.
Kit Kat.
Non, les Mars, c'est pas croustillant.
Non, c'est vrai.
Bah ouais.
Les Bounty non plus.
Mais Charlotte, exactement. Mais Charlotte, t'as raison, c'est des infos dignes d'un crunch. Tellement elles sont croustillantes. Alors, figurez-vous que Harrison Ford, Chevy Chase, Bill Murray, Sylvester Stallone et Eddie Murphy ont tour à tour refusé le rôle d'Eddie Valiant avant qu'il ne soit accepté par Bob Hoskins. Faut préciser quand même que Bill Murray n'a jamais eu le message car il n'a pas d'agent et fonctionne avec un répondeur. Il a plus tard avoué qu'il était deg d'avoir loupé ce message.
Tu m'étonnes.
Mais il s'est rattrapé un petit peu 8 ans plus tard en jouant dans Space Jam. Il a donc eu son film d'animation en prise de vue réelle.
Surtout que dans Space Jam, il a quand même un chapeau en forme de parasol. C'est quand même un truc pour aller jouer au golf.
Et justement, il dit que c'est le producteur qui l'a invité pour jouer à Space Jam. Ah dans, oui, dans le film, il dit lui-même « Oh, c'est le producteur, c'est un copain. » Il dit ça à Daffy Duck.
Alors, parmi tous les rôles que je viens de citer, lequel aurait été le moins crédible en Eddie Valiant? Il y avait Harrison Ford, Chevy Chase, Bill Murray, Sylvester Stallone et Eddie Murphy.
Stallone.
Ouais, Stallone en Eddie Valiant,
ouais,
c'est chelou, non?
C'est bizarre, ouais, ça aurait été chelou.
Ça fonctionne pas.
Quand il fait le bisou, là.
Harrison Ford, pourquoi pas?
Si, ça aurait pu être marrant, Harrison
passé,
Ford.
Hein.
Ouais, c'est vrai, pourquoi pas.
Chevy Chase, ça aurait pu passer aussi, vu qu'il était bien à l'époque.
Ouais, et surtout qu'il avait fait un film comme L'Homme Invisible.
Hein. Oui.
Qui colle un peu à l'ambiance
si,
de Roger Rabbit.
C'est un peu la fin de Chevy Chase, quand même.
Eddie Murphy, ça aurait pu faire un truc un peu fou aussi.
Ouais, Eddie Murphy, ça aurait été cool.
La suivante, j'ai trouvé ça dingue.
Ah,
complètement dingue.
Oh.
Au moment de sa sortie, Roger Rabbit était officiellement le film le plus cher de l'histoire du cinéma avec un budget de 70 millions de dollars. Mmh. Il venait tout juste de dépasser Rambo 3, sorti quelques mois plus tôt, et il a fallu attendre 1991 pour qu'un film le dépasse, à votre avis?
Jurassic Park, non?
Ou 93, Jurassic Park.
Ah, Terminator 2, alors?
Terminator 2, ouais.
Terminator 2,
Terminator 2 avec 100 millions de dollars.
Ouais, mais t'imagines que Terminator 2, en 91, c'était 100 millions de dollars, et là, Tenet, c'est 252.
Alors, c'est 100 millions de dollars en époque, d'époque sans l'inflation.
Ouais.
Donc ça aurait en fait sûrement plus. C'était combien, Tenet?
252 millions.
C'est énorme.
Ouais, ouais, mais de toute façon, ils font plus les mêmes films. Les
ça reste Avatar, le premier, encore aujourd'hui, non?
Je crois qu'il y a un film qui l'a dépassé, il me semble.
Ah ouais,
je crois que c'est Avengers.
L'élève du Cobu, non? C'est pas ça?
Toto, non?
C'est toujours ce que je dis à chaque fois.
Il adore l'élève du Cobu.
Je crois Avengers.
Ah oui, c'est peut-être Avengers.
Je crois, il y en a un des deux, Avengers Endgame ou Infinity. Je crois qu'il a battu le record
du film le plus cher.
Ouais. Je crois.
En plus, je suis sûr que tu l'as jamais vu, l'élève du Cobu.
Non, je sais pas.
Il faudrait enfin qu'on le
toi,
regarde.
Toi, tu l'as vu, toi?
Non, j'ai pas vu.
Mais je crois qu'il y en a plein, les gars. En plus, il y en a au moins 4.
Il y en a 2, non, je crois. Je crois qu'il y en a 2, ouais.
Toi, tu les as vus, toi?
Non, non, même pas. Bah, j'ai vu la bande dessinée, mais j'ai pas vu les films.
Très bien. mais, le film détient toujours un autre record et celui-là va être difficile à battre. À votre avis, lequel?
Le nombre de dessins, non?
Non. Roger Rabbit a un record.
Nombre de personnages de Toons?
On s'en rapproche un petit peu. On s'en rapproche. T'es sur la bonne voie, Charlotte.
Nombre de Toons de studios différents.
Non.
C'est pas mal, ça.
Ah, mais d'ailleurs, j'avais une anecdote à propos de ça.
Ah
ouais, bon bah.
Que Bugs Bunny s'est retrouvé dans Roger Rabbit, mais que Disney faisait qu'ils aient exactement le même nombre de minutes à l'écran que Mickey. Du coup, ils sont toujours tous les deux en même temps à l'écran.
Ah, bah d'ailleurs, ils passent en même temps.
Exactement.
Et tu as la même chose pour Donald et Daffy.
Ah, c'est vrai.
Et d'ailleurs, Mickey apparaît quelques secondes avant Bugs Bunny. Donc pour combler ce manque, bah, au début du film, tu vois Bugs Bunny qui passe derrière en caméo.
Écoutez, je dois dire que vos anecdotes étaient croustillantes tel un balisto.
Balisto, les jaunes, que les jaunes.
Les jaunes,
que les
qui
jaunes.
Mange les violets?
Ah, les verts, moi j'aime bien
violets,
les verts. Les violets,
c'est pas mal.
Les violets, c'est pas mal.
Mais d'ailleurs, j'avais une...
les verts.
À propos des friandises, j'avais une question pour vous, mais vous prenez quoi au cinéma comme friandises, par exemple?
Des bonbons.
Moi, je prends des Maltesers. Moi.
Maltesers.
Des popcorn.
Popcorn salé.
Salé ou sucré?
Sucré.
Sucré, très
et
bien.
Et toi, Guillaume?
Les baffes.
Ah oui, c'est les meilleurs popcorn.
C'est les meilleurs popcorn.
Popcorn
c'est les meilleurs popcorn, les
meilleurs. Par contre,
en revanche, je ne reprends jamais, je crois.
On se fait arnaquer, c'est un tout petit paquet et ça coûte 5 balles.
Ouais, mais c'est délicieux.
Ouais, c'est vrai.
Je tiens à dire que depuis tout à l'heure, on fait des pubs, mais on ne touche absolument aucune thune.
C'est ça, vraiment. Envoyez-nous des baffes.
Balance tes baffes.
Alors, Christopher Lloyd. On l'adore, dans Roger Rabbit.
Oui, c'est vrai, ça. Mais on ne l'a pas su, par contre, c'était quoi le record?
Ah oui, c'est vrai, merde. Vous m'avez dérouté avec vos infos.
On n'a jamais
su.
Oui, donc alors, le record, je vais vous le dire, c'est.
Un indice.
Un indice? Charlotte s'en rapprochait un peu.
Le nombre de Toons?
Non, il y a un nombre de personnes qui fait qu'à la fin, il se passe un truc. Et c'est ça le record. Mais vous ne trouverez pas parce que franchement, mon indice, c'est pas ouf.
Ah, c'est la plus grosse équipe?
Ouais, rassemblement.
C'est un peu. Guillaume a. Allez, moitié Guillaume a trouvé parce que. Encore aujourd'hui, Roger Rabbit est le plus long générique de fin de l'histoire. Il fait 10 minutes.
Oh,
c'est énorme, 10 minutes, parce qu'il y a plus de 800 personnes qui ont travaillé sur le film.
Ah ouais, bah
donc ça fait du monde à remercier. et il fait 10 minutes, c'est énorme, 10 minutes.
Sachant que les vidéos store ça fait 5 secondes.
Mais tu imagines 10 minutes.
D'ailleurs, une anecdote sur le générique de fin, c'est qu'à la fin, il y a Porky Pig qui dit au revoir les amis. Michael Eisner, donc le PDG de Disney, il a vu ça, il a vu la fin avec Porky Pig. Il a dit non, faut pas que ça s'arrête avec un personnage de Warner, je veux Clochette à la fin. C'est pour ça qu'à la fin, il y a Clochette qui a.
Bah, c'est croustillant.
Oh là là, mais toi, Porky tu croustilles, toi. Hein.
C'est vrai, il
croustille. C'est lui de la croustille.
Alors, Christopher Lloyd est terrifiant dans ce film. Pourtant, il n'était pas le premier choix de la production. À votre avis, quel acteur était envisagé pour jouer le méchant juge de mort? Je vous pose la question parce que quand vous aurez la réponse, vous vous direz mais oui, il aurait pu jouer ce rôle. Effectivement, nous sommes à la fin des années 80, et à la fin des années 80, quand on cherche des rôles de méchants, il y a quelques mecs comme ça qui peuvent remplir le poste.
C'est pas le méchant qui joue dans Robocop, celui qui fait toujours
Kurt
méchant.
Kurt Wood Smith, non, c'est non. Pas lui. Mais ça aurait pu. Kurt Wood Smith, que je revois en ce moment dans That 70 Show, la série, et qui est tellement drôle.
Ouais. On prend tellement cher Rick Foreman.
Ouais. Non. Alors, il y avait quoi comme méchant dans les années 80?
Le mec de Total Recall, là?
Ah non, ouais, c'est un bon méchant.
Michael Ironside, c'était trop chaud.
Il joue aussi dans Starship Troopers. Ouais. Non, c'est pas lui, mais il y a des méchants très connus dans les années 80. Je vous en élimine un, qui est Gary Busey, qu'on retrouvait dans,
Gary.
Dans L'Âme Fatale, par exemple.
Quelle légende.
Alors, ses initiales sont...
Alan Rickman?
Non, bien joué.
Ah, bien, ouais,
ses initiales sont TC.
Tom Cruise, grand méchant.
Non, pas Tom Cruise. Bah, je vais vous le dire.
Petit, mais...
Je vais vous le dire parce que quand même, il faut entretenir un rythme dans
Tim Curry.
Ah, quand?
Tim Curry.
Et c'est une victoire de Charlotte. Bravo, Charlotte, c'est Tim Curry, bravo.
Moi, j'étais là, Timothée Chalamet, non.
C'est effectivement qu'il y avait un an. C'est effectivement Tim Curry, bravo, Charlotte. Tim Curry qui est un méchant assez incroyable. Il n'y a pas longtemps, en story, je dressais une liste de tous ses rôles de méchant. Il fait le méchant dans Legend, le Diable. Il fait le méchant dans ça. Il fait le méchant dans Home Alone, mais un méchant un peu gentil. Et il a toujours enchaîné les rôles de méchant dans sa carrière.
Et justement, quand il n'avait pas fait passer un casting, ils ont dit qu'il faisait trop peur. Non, c'est pas ça.
Non, en gros, c'est juste que la production voulait Tim Curry, mais lui, Zemeckis voulait Christopher Lloyd parce qu'il avait déjà travaillé avec lui sur Retour vers le futur.
Un poteau.
Voilà, et d'ailleurs il joue très bien.
Ouais.
Et
flippé avec sa voix.
Je tiens à préciser que c'est Christopher Lloyd qui a soumis à Robert Zemeckis l'idée d'interpréter un personnage qui ne cligne jamais des yeux.
Ah ouais,
c'est vrai que quand on regarde, il ne cligne jamais des yeux.
Trop peur.
Un effet de vent à chaque fois.
Un effet de vent et aussi un effet de lumière sur les lunettes. Parfois on voit pas ses yeux. Ouais. C'est juste que la light aveuglisse.
Aveuglisse.
Ça va, j'ai compris ce que ça veut dire.
Ok, je l'ai refait. C'est juste que la light
aveugle
ses lunettes. Ça se dit ou pas? Non, je crois. Hein.
Aveugle ses lunettes.
Ouais, bon, allez, tu m'as compris là. Les lunettes sont des toons vivants et elles sont aveuglées.
Je pense qu'on regarde surtout ses dents, Christopher.
Ouais, c'est vrai.
Même son nez, il est un peu plus crochu que normalement.
Ouais, et d'ailleurs, dans la fameuse série docu dont je parlais tout à l'heure, qui est dispo sur Disney+, y a Christopher Lloyd qui revient dans les archives Disney et qui revoit son costume d'époque. Ah ouais, et ça lui procure une sacrée émotion.
Ah ouais. Dans les méchants de Roger Rabbit qui me faisaient flipper, il y avait le gorille.
Oui, ah oui, c'est vrai.
Le gorille qui est cool, porte, qui est videur.
Oh, c'est un poteau, lui.
Non, il fait flipper.
Ah ouais.
Tu vois pas?
Il est méchant.
Je vois très bien, je l'ai vu il y a 5 jours. Alors, c'est trop bon gars, le gorille.
Ludovic a encore imité la voix du gorille. Ça veut dire que t'es très fort en imitation.
Ah ouais.
Une ou deux imitations comme ça? Hors dessin animé, genre Sarkozy, tout ça.
Non, ça, je sais pas faire.
Non, mais Mickey, tu sais faire.
Zidane.
Dessin animé.
Zidane.
Je peux te faire Dingo. Oh yo, salaud.
Ah, c'est Dingo ça, refais.
Attends. Oh yo.
Toi, il fait, sûr, il fait toujours. Je crois que là, t'as juste un truc coincé dans la bouche.
Non, il fait toujours le petit
attention. C'est vrai qu'il a un truc un peu bizarre.
On dirait juste que tu t'étouffes avec une noix de cajou.
Non, mais je fais mieux, mais là, avec le casque, le micro, c'est compliqué.
Alors,
bon, Donald.
Donald, c'est compliqué.
Moi, je le fais, Donald.
Ah,
je veux dire, je sais pas si tu fais mieux Donald ou Renault. C'est entre les deux.
Mais parce qu'il faut savoir que je suis aussi imitateur de Renault, tout comme Guillaume est imitateur de Christophe Maé, on l'a déjà entendu dans l'émission. Et que Aurélien est imitateur de Nagui, mais naturel,
ouais,
sans forcer.
C'est juste Nagui, moi.
Il fait Nagui. Charlotte, t'as une imitation à nous proposer?
Pas du tout.
Ah, j'aurais rêvé que tu nous fasses une petite imitation.
Bah moi aussi, mais non. Pas
donc, donc Ludovic crée un pas d'autre.
Porcinet.
Porcinet, pas mal. Bon, bravo. Alors, en parlant de voix, dans ce film, il y a une scène qui a traumatisé pas mal d'enfants. C'est la fameuse scène dont je parlais tout à l'heure, celle de la chaussure dans le bain d'acide. Cette chaussure, on n'entend jamais parler, mais on l'entend pleurer. Eh bien, la personne qui double la chaussure, c'est Nancy Cartwright. Et Nancy Cartwright, elle deviendra connue un an plus tard en devenant la voix culte de Bart Simpson.
Ah, mais oui, je me disais, je connais ce nom. Mais c'est le générique à deux fins.
Les petits cris de pleurs de la chaussure, c'est Bart Simpson.
Ah, trop bien.
C'est drôle. C'était croustillant, non?
Très croustillant.
Celle-là, elle est marrante. Il y a une version du script dans laquelle le juge de mort confesse qu'il est l'auteur du meurtre de la mère de Bambi. Ça aurait été marrant. En fait.
Ça aurait été
mais marrant. D'ailleurs, dans Roger Rabbit, il dit qu'il est le, il est le cousin éloigné de Pampan.
Ah ouais?
En parlant de Bambi. Ouais.
Ah, je savais pas.
Alors, neveu de Pampan, je crois. Le neveu, je crois. Je sais plus. Ou un truc comme ça. Bonsoir.
Mais du coup, est-ce qu'il fait déjà référence à son état de toon?
C'est une très bonne question, Charlotte. Tu nous as soufflé.
Ouais. On sort les copies doubles. On va
Alors, ce qui est cool avec ce film, c'est qu'il y a plein de caméos. On a Dumbo, Mickey, Donald, Bugs Bunny. Tout à l'heure, Guillaume en parlait. Il y aurait pu en avoir plus, car était également envisagé Casper, le gentil fantôme.
Casper.
Casper aurait pu être dans Roger Rabbit, mais également.
Mais sortez-vous, Casper.
Casper, surtout, c'est bien un film qui mélange les deux.
Oui,
c'est vrai. Exactement. Bravo. Super film, Casper.
Ouais. J'adore.
Donc, il aurait pu y avoir Casper, il aurait pu y avoir Popeye dans Roger Rabbit, également Superman, mais aussi Tom et Jerry et plein d'autres.
Ah, mais Tom et Jerry ne sont pas dedans.
Non.
Bah, il y a Titi, mais il n'y a pas Gros Minet déjà. Enfin, je crois pas.
Non, c'est Gros Minet lié à la fin, on le voit.
À la fin, ouais.
Ouais, vite fait, non, quand ils sont
ouais, c'est vrai qu'il y a plein de Toons.
Mais quand,
ouais.
quand il y a Toons, il n'y a pas Tom et Jerry.
Non.
Je crois pas. Il devait y avoir aussi Félix le Chat, mais ils n'ont pas réussi à avoir les droits. Mais ils ont réussi à les incruster dans le film.
Je crois qu'il devait y avoir Fantomette aussi.
Ah je pensais que j'allais faire cette vanne. C'est trop bizarre.
Brousse tout ça.
Pourquoi on pense à Fantomette, mon gars?
Ok.
On est vieux.
Et une info mignonne pour terminer. Lorsque le film est sorti, le fils de Bob Hoskins lui a fait la tête pendant 2 semaines.
Ah bon ?
Son père a donc insisté afin de savoir pourquoi. Et celui-ci lui a répondu « T'as tourné avec Bugs Bunny et tu m'as même pas proposé de le rencontrer.
Oh. »
En fait, son fils, il avait 3 ans et le film était tellement réaliste qu'il pensait que le toon existait vraiment. Donc en fait, son fils lui a fait la gueule. C'est drôle, je trouve.
Excellent.
Très mignon. Trop bien.
C'est vrai que c'est bien fait, justement.
Est-ce que c'était trop mignon avec un C ?
Moi, j'ai une info.
Ah ! Attends, mais par contre, il faut qu'elle soit croustillante.
Alors, on est content.
Sinon, on peut pas rentrer dans l'émission.
Croustillante.
Moi, je pense, parce que c'est ça fait histoire. Référence à tous les autres films dont on a parlé, mi live action et...
Très bien. Pour l'instant, ça croustille comme un Pringles. Oui.
je pense que le Qui veut la peau de Roger Rabbit aurait été totalement différent s'il avait été réalisé par Terry Gilliam et ça devait être le cas avant qu'il abandonne le projet.
C'est croustillant comme un Monster Munch.
Ouh là là,
c'est
là.
Bah bravo.
C'est vrai.
C'est une très bonne info.
Pourquoi il a abandonné ? Alors, vas-y.
Comment ?
Pourquoi il a abandonné le projet ?
Écoutez.
Ça, je sais pas.
voilà, c'est une info à 50%.
Monster Munch qu'on a laissé ouvert, mais qui sont plus trop croquants le lendemain.
À la tomate, quoi.
Eh bien, c'est cette info de Charlotte qui clôt l'épisode d'aujourd'hui.
Wow, bravo,
c'était
Charlotte.
La dernière info.
Superbe.
Charlotte et Ludovic, merci d'être venus. Je termine toujours en demandant quelle est l'actu des invités. Il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas avec vous. Charlotte, c'est quoi le programme pour les prochains mois ? Retour à Aix, du coup ?
Oui, bah, mercredi, retour à Aix.
Ok.
Et déjà, je déménage, donc voilà. Et surtout, bah, retour dans les salles de cinéma.
Tu déménages à Aix ou
Oui, toujours à Aix.
Mais alors, si vous êtes sur Aix, elle déménage, elle a besoin de bras.
Alors, pour les gens qui ne sont jamais allés à Aix, comment tu les convaincrais d'y aller ?
Est-ce que j'ai vraiment envie de les convaincre d'y aller ?
Aïe,
c'est pas dire c'est la pire des phrases pour convaincre déjà, pour commencer.
Bah, peut-être qu'ils peuvent se dire, mais pourquoi ? Et du coup, par instinct de...
Tiens, ok, d'accord.
Mais il fait beau là-bas.
Le pire office de tourisme.
Non, mais si, Aix, c'est bien, si vous aimez la mer pas loin.
Très bien, cool.
Bonne phrase.
Ludovic.
Ben moi, je continue à bosser dans le Paris, ça ne change pas, du moins j'espère.
Très bien.
Avec le podcast, on sait jamais.
Et Disneyland pour ramasser encore plus d'infos croustillantes chaque jour. C'est ça aussi ton objectif.
Tout à fait.
Mais bravo. En tout cas, c'était très cool de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et pour tous ceux qui nous écoutent, sachez que c'est une expérience qu'on va reproduire à l'avenir, genre une fois par an. Donc je referai en sorte de donner à des abonnés l'opportunité de venir dans l'émission. Pour le prochain épisode, pas d'indice, parce que ce sera la surprise. Quand je dis ça, c'est une façon de vous dire qu'en fait, j'ai pas trouvé le film qui sera le sujet du prochain épisode et que j'étais un peu en galère. Donc ce sera une surprise pour le prochain épisode. Guillaume et Aurélien, c'est cool de se retrouver, ça faisait longtemps.
Yeah.
Et on se retrouve dans 2 semaines.
Allez. Merci beaucoup en tout cas.
Salut tout le monde.
C'était cool d'être là.
Merci à vous.
Ciao, ciao.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer.
That's stamps.com code PROGRAM.